Vous écoutez
RMC.
RMC, 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Le tout début de la vie d'après pour les habitants de Gironde, ceux de Lesches-Cap-Ferret et du Porge ont pu rentrer chez eux hier. Plusieurs campings également autorisés à rouvrir. Le feu sur place n'est toujours pas éteint. L'extrême vigilance des pompiers du Var face à une nouvelle journée à haut risque avec la chaleur et le vent. L'incendie est toujours problématique selon le préfet. Et puis on vous emmènera au cinéma voir Spider-Man, le dernier blockbuster qui fait grimper les entrer dans les salles obscures cet été.
Clara, un semblant de retour à la vie normale en Gironde.
Cela faisait plus de 10 jours qu'ils avaient dû quitter leur logement. Les habitants du Porge et de Lesches-Cap-Ferret ont pu rentrer chez eux hier. Le feu est toujours fixé. Certains ont eu la chance de retrouver leur maison intacte. D'autres n'ont pu que constater les dégâts. Amine Lafchin, c'est en tout cas la fin d'une longue attente.
Sur la route, à quelques kilomètres de Lesches-Cap-Ferret, des voitures en file indienne. Au bout, derrière les barrières, l'entrée de la commune. La délivrance pour Christine qui retrouve sa maison intacte.
Forcément, c'est un soulagement. On a eu très très peur pour notre maison, pour notre ville, pour nos amis, pour nos commerces.
Dans le centre-ville où la vie tente de reprendre.
Pas trop pluie comme ça, ça va ?
La boulangerie a rouvert ses portes.
Désirez autre chose ?
Plus loin, dans le bourg, Fabien retrouve ses habitudes après un long périple.
Le temps était long, surtout psychologiquement parlant. Oui. On a évacué, on est parti sur Arès. À 10h du matin, évacué d'Arès, donc on est parti dans la famille à Martignas. À Martignas, en fin d'après-midi, évacué. Donc on est parti se réfugier un petit peu, se reposer à Toulouse.
Pour d'autres, comme Frédéric, tuyau d'arrosage à la main.
C'est le grand nettoyage, puisqu'il y avait une coupure d'électricité. Et bon, tout ce qui est frigo, congélateur, tout est à vider.
Un moindre mal, car derrière ça est entièrement brûlé. La maison de ses voisins a, elle, été ravagée par les flammes.
La préfecture a aussi donné son feu vert à plusieurs campings de Lesches-Cap-Ferret. 8 autorisés à rouvrir hier en fin de journée. Ils n'ont pas été touchés par l'incendie. Les pompiers sont toujours à pied d'œuvre autour du bassin d'Arcachon pour éteindre définitivement les flammes, aidés depuis hier par environ 70 collègues venus d'Ukraine.
Des pompiers, Clara, également toujours très vigilants dans le Var.
Ils sont 1500 mobilisés pour dompter les reprises de feu autour du massif du Gros Bessillon. Incendie qui s'est déclaré il y a 14 jours, alimenté par un autre un peu plus au sud depuis vendredi. Près de 4600 hectares au total parcourus par les flammes. Mais pour l'heure, le feu est contenu. S'est félicité hier le préfet du Var, Simon Babre.
C'est la première journée depuis le 21 juillet que nous n'avons aucune population confinée ou évacuée. Et c'est quand même un soulagement pour beaucoup de communes, beaucoup d'habitants. Rien ne peut être considéré comme acquis. Nous aurons à nouveau une journée avec les rafales qui pourraient quand même atteindre ou dépasser les 40 km/h. Donc la situation reste une situation problématique avant que mercredi ou jeudi ne se réinstalle un flux de Mistral qui referait partir le vent dans un sens opposé et qui pourrait réactiver des foyers ailleurs que les foyers qui ont été traités depuis 2 jours.
Un autre incendie à vous signaler dans la Drôme hier en fin de journée près de Bellegarde en Diwa. Il a parcouru près de 80 hectares. 50 personnes ont dû être évacuées d'un hameau. 7 canadaires ont été mobilisés. Et pendant ce temps, les enquêtes judiciaires se poursuivent. 375 personnes interpellées depuis le début de la saison. C'est le dernier bilan du ministère de l'Intérieur. Des personnes soupçonnées d'être à l'origine de certains feux. Pierre Bazin, ce qui est particulièrement surprenant dans ces chiffres, c'est qu'il y a de nombreux mineurs.
Oui, ils sont 142 à avoir été arrêtés par des policiers et des gendarmes pour des soupçons de départ de feu volontaire ou involontaire. Cela représente au total un peu plus d'un tiers des incendiaires présumés interpellés depuis le début du mois de juin. Ces mineurs, parfois très jeunes, 10 ans à peine pour certains, sont soupçonnés d'avoir mis le feu, par exemple, à des champs en utilisant des pétards ou des mortiers d'artifice lorsqu'il s'agit de négligence. Mais d'autres sont mis en cause dans des incendies volontaires. À Toulon, par exemple, un adolescent de 15 ans est soupçonné d'avoir allumé deux feux, 2 jours de suite. Ce fils de pompier a expliqué aux enquêteurs qu'il voulait en faire son métier, mais ses motivations restent floues. Il doit comparaître en octobre prochain devant un tribunal pour enfants. Comme lui, d'autres mineurs auront également rendez-vous avec la justice dans les prochains mois.
Pierre Bazin, service police-justice d'RMC. Le pronostic vital de deux jeunes randonneurs réservés ce matin. Ils sont gravement blessés à un jeune homme de 21 ans et un adolescent de 14 ans frappé par la foudre hier dans les Hautes-Pyrénées sur le sentier du GR10 à 2700 mètres d'altitude.
Le célèbre chef Jean Humbert en garde à vue depuis hier matin à Paris.
Il est entendu par la police après plusieurs plaintes pour violence conjugale. Celui qui a été propulsé par l'émission Top Chef doit répondre aux accusations de trois de ses ex-compagnes, Julie Brault.
Oui, parmi elles, l'ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld accuse Jean Humbert de plusieurs violences physiques commises au cours de leur relation. Elle a notamment raconté, radiographie à l'appui, comment le célèbre chef lui aurait fracturé le nez en octobre 2013 lors du tournage d'une émission télévisée que le couple co-animait. Des accusations formellement démenties par Jean Humbert qui, selon ses avocats, s'est rendu à son audition avec de nombreux éléments matériels. Il répond à toutes les questions des enquêteurs et étaye sa version des faits, ont-ils assuré hier. Au total, le vainqueur de Top Chef est visé par au moins trois plaintes d'anciennes compagnes qu'il accuse de diverses violences physiques et psychologiques, alors que le parquet de Paris, chargé de l'enquête en cours, cherche toujours à identifier de nouvelles victimes potentielles.
Précision de Julie Brault. La mort d'un adolescent de 17 ans à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Son père hospitalisé après une tentative de suicide. Il est soupçonné de l'avoir tué, probablement en l'étranglant. Selon le parquet, le RAID a dû intervenir dans cet appartement du quartier de la Madeleine, à l'ouest de la ville. On l'a appris hier, le groupe Intermarché a porté plainte après avoir été victime d'une cyberattaque la semaine dernière. Près de 300 000 clients du service Drive concernés par cette fuite de données, notamment leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse et certaines informations sur leurs commandes en ligne. Intermarché précise qu'aucune donnée bancaire n'a fuité.
Clara, on va au cinéma où les salles font le plein cet été et ça c'est bien. Et
oui, les chiffres sont très bons. Plus de 20% de hausse en juillet par rapport à la même période de l'an dernier. Plus de 17 millions d'entrées selon le Centre National du Cinéma, le CNC, grâce aux récentes sorties, notamment le dernier Spider-Man qui a enregistré 2 millions d'entrées en France les deux premiers jours de sa sortie. Et une semaine après, les spectateurs sont toujours au rendez-vous, Philippine Boulet.
À la sortie, les premiers séduits sont les plus jeunes.
Spider-Man, c'était trop cool. C'est dans mon top 5 des meilleurs films que j'ai vus.
2h20 de film et pas une minute de trop pour Maximilian, 9 ans.
J'ai vraiment bien aimé, avait plein de trucs en même temps. C'était dur à tout retenir, mais j'ai quand même tout retenu.
Vincent, lui, a 24 ans et il attendait le retour de son super-héros préféré depuis des semaines.
Spider-Man, c'est ancré en moi. J'y vais très peu au cinéma de base, mais des films comme ça, ça se regarde au cinéma quand même. On a la qualité d'image, on a le confort aussi.
Comme lui, les spectateurs reviennent dans les salles. Leur fréquentation a bondi de plus de 20% par rapport à juillet dernier, portée par les grosses sorties de la saison.
L'Odyssée de Christopher Nolan et puis là le Spider-Man qui atteint des chiffres qu'on peut qualifier de stratosphériques.
Cédric Aubry, le président du syndicat des cinémas indépendants.
On est en train de renouer avec l'ensemble du public. On est sur un cercle vertueux. Les films sont bons, les gens ont envie. La forte chaleur a joué encore une fois partout en France, donc c'est très profitable pour la fréquentation.
Il espère désormais approcher les 200 millions d'entrées d'ici la fin d'année, un niveau que les salles françaises n'ont plus atteint depuis la pandémie de Covid-19.
Toujours pas de médaille pour la France au championnat d'Europe de natation.
Elle a terminé hier à la 5e place en équipe libre de natation artistique. Pas le résultat espéré, mais elle aura marqué l'histoire grâce à un de ses membres, Milan Violon, 17 ans. Premier homme français à participer à une épreuve de natation artistique par équipe. Les hommes le peuvent depuis les JO de Paris 2024. Mais Antoine Brard, cette participation lui vaut depuis une vague de cyberharcèlement.
Oui, voir Milan Violon, un garçon dans un ballet avec des nageuses dérange.
J'ai vu beaucoup de commentaires méchants et ça montre que pour le coup, il y a vraiment du jugement vu la vague de haine que j'ai reçue hier.
Mais pour autant, ce n'est pas ça qui va l'arrêter.
Je vais continuer jusqu'au bout et je lâcherai pas, ça va être compliqué. Ça l'a déjà été très compliqué.
Ce manque d'ouverture d'esprit, il va falloir s'y habituer, selon Virginie Dedieu, ex-triple championne du monde de natation artistique et mère d'un futur espoir de la discipline.
Je pense qu'il faut les préparer à ça, ça va pas être fini du jour au lendemain. Par contre, il devrait y avoir de plus en plus de bons messages que de messages négatifs. Il va falloir être fort dans sa tête pour occulter ceux qui sont négatifs et méchants parce que c'est complètement idiot.
Et si Milan Violon est devenu le seul garçon français à participer à une grande compétition, il espère maintenant faire partie des premiers hommes à disputer les Jeux Olympiques de natation artistique par équipe.
Le Tour de France femme avec une victoire hier de la Norvégienne Sigrid Hogset qui s'empare du maillot jaune. Aujourd'hui, un contre-la-montre en Bourgogne, 21 km entre Gevrey-Chambertin et Dijon, départ 14h30. Les coureuses qui seront contrôlées au niveau de leur tenue aujourd'hui, plus particulièrement de leur soutien-gorge, notamment pour voir s'ils sont rembourrés, car selon l'Union Cycliste Internationale, en augmentant la surface de la poitrine des coureuses, ils pourraient permettre un gain aérodynamique. Et puis ce soir, premier match officiel de la saison pour l'Olympique Lyonnais et pas le moindre, troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions. L'Olympique Lyonnais affronte le Sparta Prague, coup d'envoi à 20h.
Merci beaucoup Clara, prochain journal ce sera à 7h30. Vous réagissez au 32-16, notamment si vous voulez réagir sur vos vacances, sur votre budget qui est contraint, c'est en tout cas ce que nous disent pas mal d'études. Vous nous appelez au 32-16, vous réagissez également sur le WhatsApp de l'émission au 06 12 424 424. Et Victor Pourchet, il y a déjà des messages.
Oui, beaucoup de réactions ce matin, et déjà un bonjour et une belle image qui nous arrive de la part de Loïc qui nous dit qu'il fait 14 degrés au saisie et qui nous a envoyé alors une photo avec vue sur le Mont Blanc, petite route isolée au lever du jour. Je vous assure magnifique, que c'est extraordinaire. Vous continuez à nous envoyer vos photos. On a aussi Corinne qui nous dit tiens, la hausse du prix des carburants passe sous silence, pourtant elle est énorme depuis mi-juillet. Pierre Rondeau en face de moi, restez avec nous Corinne, ouais, parce qu'on fait un point sur les prix de l'énergie tous les matins dans Apolline Matin. Et puis on a Christian qui réagit à RMC dans vos villes, où on ira à Vauvert dans le Gard, où le maire RN a rétabli la corrida. Et bien Christian nous dit qu'il ne faut plus seulement détourner le regard, mais qu'il faut vraiment insister pour que ce soit totalement interdit, la corrida. Vous l'avez compris, Christian est totalement contre.
Et si vous voulez justement réagir aussi sur la corrida, je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup réagir, qui est assez clivant. Vous nous appelez au 32-16, RMC 7h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Les vacances, c'est sacré, mais à quel prix ? Des vacances plus courtes, des pique-niques à la place du restaurant, une nuit chez des amis plutôt qu'à l'hôtel, voilà à quoi ressemble l'été 2026 des Français. Un tiers d'entre vous ne dispose que de 1000 euros pour les vacances, tout compris, et ça va vite. C'est le parti pris de ce matin, très gros problème de pouvoir d'achat. Bonjour Leslie Rival.
Bonjour.
Vous êtes la secrétaire générale de l'Alliance France Tourisme. On se retrouve tout de suite sur RMC et RMC Story. Vous allez nous décrypter ce comportement des Français, tous ces chiffres. C'est dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 7h14, les Français partent, mais ils partent moins longtemps et dépensent moins. Le budget vacances moyen d'un foyer est tombé à 1530 euros cet été, c'est 150 euros de moins qu'en 2025. Et un tiers des vacanciers ne disposent que de 1000 euros pour partir en vacances, tout compris budget carburant, logement. C'est le parti pris de ce matin sur RMC, un gros problème de pouvoir d'achat. Rebonjour Leslie Rival.
Rebonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. Vous êtes la secrétaire générale de l'Alliance France Tourisme, qui rassemble notamment de grands groupes hein, comme Accor, SNCF Connect, Air France, entre autres, je ne cite que cela. Votre parti pris ce matin, c'est qu'il y a un grave problème de pouvoir d'achat pour les vacanciers. Concrètement, on va être concret tout de suite, là je pars en vacances, sur quoi je rogne en premier, ce que font les Français actuellement ?
Donc effectivement, des vacances contraintes cette année encore pour les Français, avec une baisse du pouvoir d'achat, une baisse des budgets. Et donc les Français vont prioriser, sacraliser le départ en vacances, mais avec des budgets contraints. Donc ils vont se contraindre notamment sur la durée du séjour, ou encore sur ce qu'on appelle les dépenses plaisir, qui sont le restaurant, le shopping, voire les loisirs.
La durée de séjour aujourd'hui, c'est quoi ?
Là, on les a interrogés sur le départ d'au moins une semaine dans l'année, mais la durée de séjour est environ de 2 semaines chaque été.
Alors qu'avant, c'était beaucoup plus.
C'est vrai qu'avant, on partait pour des grandes périodes. On parlait des grandes vacances, puisqu'on partait environ un mois, principalement le mois d'août. Donc aujourd'hui, on consomme différemment les vacances.
On l'a dit, moins de restaurants, moins d'achats plaisir, on fait attention, donc forcément, et puis on fait attention aussi à l'hébergement, peut-être que bon là on se restreint un petit peu, au lieu de prendre un hôtel, on va plutôt choisir un bungalow par exemple, même si aujourd'hui les bungalows ont pris en gamme. Mais est-ce que justement les hébergeurs ou les commerçants, ce sont eux qui trinquent désormais, parce que pour eux, c'est difficile de s'en sortir du coup.
Alors, ce qui était notable également, c'était que 10% des Français en plus vont partir dans des hébergements gratuits. Ça veut dire qu'on part chez les amis, chez la famille, on s'organise un peu différemment.
C'est bien d'avoir des amis.
C'est bien d'avoir des amis et de la famille, c'est encore mieux. Mais donc, on va chercher des solutions d'hébergement gratuit. Donc ça, c'est effectivement différent cette année. Et le camping a pris également 10%. Donc, on passe de 17 à 27% d'hébergement en camping. Donc, on cherche des solutions gratuites, moins chères. 10% en plus par rapport à l'année dernière. Donc, le camping fonctionne bien. Donc, des solutions moins onéreuses pour pouvoir partir et partir quand même cet été.
Est-ce que sur juin-juillet, parce que voilà, c'est pour l'instant on a que les chiffres sur le début de la saison, est-ce que c'est quand même, le bilan est quand même satisfaisant pour les professionnels?
Le bilan est plutôt satisfaisant, plutôt bon pour juin-juillet, toutefois avec des réservations vraiment de dernière minute. Donc une incertitude, et là pour le mois d'août, c'est un petit peu la même chose. On a moins de réservations, donc on l'espère également de la dernière minute, ce qu'on appelle le late pick-up. Et en revanche, septembre, et donc les ailes de saison, septembre et octobre sont des plutôt bons mois en termes de réservations.
Serge Papin, le ministre des PME et du tourisme, a assuré vendredi dernier encore que le tourisme va bien, très bien. Est-ce qu'il se trompe un peu quand même ?
Alors non, puisque c'est plutôt une industrie qui se porte bien, ce qui n'est pas le cas de toutes les industries françaises en ce moment. Donc au contraire, nous, ce qu'on dit, et à l'Alliance France Tourisme, ce pourquoi nous plaidons fortement, c'est qu'on s'occupe de cette stratégie industrielle française touristique à bon niveau.
D'accord. On parlait à l'instant de choix, on change ses choix, ses plans pour les vacances. Est-ce que les conditions météorologiques, on a vécu quatre épisodes caniculaires là depuis le mois de mai, est-ce que ça influe aussi sur le choix des destinations ?
Alors ça peut, puisqu'il s'agit surtout d'une question de confort. Donc il faut que ce soit un confort et non une angoisse. Donc c'est vrai que des destinations qui fonctionnaient peut-être un petit peu moins commencent à bien fonctionner. On peut parler de la Bretagne, de la Manche, du nord de la France. Un élu local nous a dit l'autre jour, et j'ai trouvé ça très drôle, que la Manche était devenue le sud du nord de l'Europe. Donc des destinations, et puis un phénomène qu'on appelle le coolcation, vers lesquelles on va rechercher un peu plus de fraîcheur.
Moins de pouvoir d'achat, en tout cas, ça c'est certain pour les Français. Est-ce que les professionnels du tourisme s'adaptent ? Parce que on va pas se voiler la face. On le sait, parfois, quand on rentre dans certaines destinations touristiques, on a un peu l'impression de se faire plumer avec des prix qui explosent. Est-ce que les professionnels du tourisme l'entendent, cette baisse du pouvoir d'achat des Français, et s'adaptent ? Soyons sincères, soyons pas de voir le verre à moitié plein ni à moitié vide, mais je veux dire, soyons honnêtes, est-ce que on s'adapte aussi du côté des professionnels?
Les professionnels s'adaptent, puisqu'il faut dire aussi que 75% du tourisme français, c'est un tourisme des Français. Donc il est très important pour les professionnels du tourisme de s'adapter et de repositionner leur offre, parce qu'il faut préserver le droit aux vacances pour tous, bien évidemment. Donc l'avantage en France, c'est que nous avons quand même des offres très diverses et variées. On peut camper comme aller sur un hôtel palace absolument extraordinaire, donc un peu pour tous les budgets et pour tous les foyers.
Merci beaucoup Leslie Rival d'avoir été avec nous, secrétaire générale de l'Alliance France Tourisme. Allez, on va au 32-16 retrouver Nathalie. Bonjour Nathalie.
Oui.
Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous. On est en région parisienne, à Melun.
Oui, dans le 77, oui.
D'accord, vous faites quoi dans la vie ?
Préparatrice en pharmacie hospitalière.
D'accord, est-ce que vous êtes allée en vacances Nathalie ?
Oui.
Ah, vous êtes allée où ?
Je suis allée dans le sud.
Dans le sud. Dans le Var, très bien. Vous êtes partie combien de temps, Nathalie ?
3 semaines.
3 semaines, c'est pas mal déjà. C'est plus que la moyenne des Français, en tout cas, d'après ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que votre budget est également restreint ? Est-ce que vous êtes quand même partie, mais est-ce que vous avez fait des sacrifices sur un certain nombre de dépenses lors de vos vacances, Nathalie ?
Ah non, pendant les vacances d'été.
Ouais, rapprochez-vous un peu du téléphone, Nathalie.
Oui, pardon. Pendant les vacances d'été, c'est la seule période où je pars, donc... J'ai fait des dépenses.
Les vacances, ça reste sacré. Ouais. Ça reste sacré.
Oui, les vacances d'été, c'est les seules vacances où on part. Donc, on en profite. Voilà, on en profite.
Vous en profitez. Mais Nathalie, alors, inversement, est-ce que pendant l'année, Vous faites des arbitrages, vous vous sacrifiez un petit peu, ou en tout cas vous restreignez certaines dépenses pour pouvoir partir en vacances.
Oui, je veux dire qu'on voilà, on a décidé de partir juste cette période-là pour justement économiser. On économise tout le reste de l'année pour les vacances d'été.
Ça reste sacré, les vacances. On a bien compris, Nathalie, la liaison n'était pas parfaite, mais en tout cas, on a compris que voilà, les vacances, ça reste sacré pour les Français. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir été avec nous. Et vous continuez à nous appeler au 3216 et réagir également sur le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424. RMC, 7h22.
RMC.
Le chiffre du jour.
Le chiffre du jour avec Pierre Rondeau, notre économiste. On va parler d'une large étude européenne du cabinet WTW ou alors WTW,
je ne sais pas,
mais qui met en avant une augmentation médiane des salaires en France de 3%. Alors, on vient de parler de crise du pouvoir d'achat et les salaires augmentent.
Moi, je comprends plus. Alors, on est sur les salaires, le pouvoir d'achat, c'est salaire et inflation. Donc, l'inflation, c'est un autre sujet. Mmh. Et là, effectivement, le cabinet WTW annonce une augmentation des salaires de 3% en 2026, qui vient confirmer la trajectoire fixée en 2025 et même des prévisions pour 2027 quasiment identiques. La France semble donc se retrouver dans une situation de stabilité macroéconomique, si on en croit cette étude. Mais ensuite, par comparaison, la France se situe en bas de tableau par rapport à la comparaison européenne. Le Royaume-Uni est devant avec une augmentation de 3,5%. Puis viennent les Pays-Bas et l'Irlande à 3,4%. L'Espagne à 3,2%. La Belgique et l'Allemagne 3,1%. La France avec l'Italie 3%. Devant la Suisse avec une augmentation médiane de seulement 2,4%.
Y a-t-il d'autres chiffres, d'autres éléments qu'on peut retenir dans cette étude ?
Alors, à partir de cette étude, donc précisons sa méthodologie, l'enquête, c'est une enquête pour la France réalisée auprès de 798 entreprises avec des questions envoyées aux responsables des ressources humaines. Au total, 34 000 réponses ont été récoltées pour juillet 2026. Et au-delà de la hausse des salaires estimés, il en ressort un élément important. 97% des entreprises interrogées s'appuient sur la performance et la démarche individuelle pour l'augmentation des salaires. Mmh. Autrement dit, la nouvelle norme est celle de l'individualisation. C'est au salarié de venir demander et négocier une augmentation de son salaire plutôt que d'attendre une démarche collective groupée. Vous voulez une augmentation, Rémi ? Allez toquer à la porte de votre patron et prouvez que vous le méritez.
J'y vais.
Ah oui. C'est un véritable changement de modèle, un changement de philosophie, puisqu'en 2025, 61% des augmentations de salaire étaient issues de négociations collectives. Mmh. Dorénavant, les entreprises, selon cette étude, cette enquête, les entreprises vont se baser sur le mérite, l'effort individuel, la performance individuelle. Voilà les perspectives des hausses. Mais seulement au mérite.
Merci beaucoup, Pierre Rondeau, qui a beaucoup de mérite. Pierre,
merci. On retrouve. On va aller toquer chez le patron.
Pierre, qu'on retrouve après le journal de 8 heures avec une autre bonne nouvelle. Il y a cette fois la question des salaires. L'inflation est moins élevée chez nous comparée à nos voisins européens.
Bon, voilà. Encore une bonne nouvelle.
Bon. Tout de suite, c'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier. Fort Boyard au programme ce matin.
Comme chaque matin, c'est l'heure d'Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Ah là 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 là, quel kiff. Vous l'avez reconnu, évidemment. La célèbre émission Fort Boyard, elle va changer de visage, on l'a appris hier. C'est l'animateur Cyril Ferraud qui va présenter le jeu et succéder donc à Olivier Mine. Ce n'est pas la seule actualité du fort le plus célèbre de France.
Et oui, puisqu'il vient de faire son entrée au loto du patrimoine. Si vous participez à ce loto, vous aiderez donc en partie le fameux fort, puisque le Fort Boyard a absolument besoin d'argent. Un vaste chantier de restauration du bâtiment est prévu par le département de la Charente-Maritime pour un coût total estimé à 44 millions d'euros. Des travaux nécessaires, Apolline, puisque ce fort n'est plus tout jeune.
Mais alors justement, il date de quand ce fort ?
Alors c'est une très vieille idée. Depuis le XVIIe siècle, l'État veut absolument construire un fort sur l'estuaire de la Charente pour protéger cette côte française des navires ennemis. Problème, comment construire un fort en pleine mer ? Et oui, c'est pas si simple. Donc, on envisage de l'ériger sur un banc de sable. Son nom vient de là, Boyard, puisque Boyard, c'est la version francisée d'un mot hollandais, ban yard, qui veut dire banc de sable. Alors pourquoi hollandais ? Eh bien parce que les Hollandais ont été les tout premiers à cartographier le banc de sable où le Fort Boyard sera effectivement construit. Bref, l'idée était là, mais ça va prendre beaucoup de temps, plus d'un siècle, pour qu'elle devienne techniquement possible.
Comment va se passer sa construction alors ?
Eh ben très mal, très mal. Les travaux commencent sous Napoléon en 1803, sauf que tout était évidemment très compliqué. Il fallait acheminer toutes les pierres par bateau, construire des fondations sous-marines, tout ça au 19e siècle. Bâtir un tel édifice sur un banc de sable, c'était une première hein, et un défi. Résultat, le chantier va durer 63 ans quand même. Hein.
63 ans quand même. Après tout ce temps, est-ce que le fort avait encore une utilité ?
Plus vraiment. C'est bien le problème, forcément, ça a pris un peu trop de temps. La situation militaire avait changé. Du coup, ce fort de 68 mètres de long n'avait plus aucune fonction stratégique. Donc en 1871, on le transforme en prison. Et puis après, ben, on va le laisser à l'abandon. On va même le surnommer le fort inutile. Et l'État va ensuite le louer. Alors, Apolline, sachez-le, en 1931, si vous vouliez louer le Fort Boyard pour un an, ça vous coûtait 900 francs par an, ce qui aujourd'hui représenterait 150 euros.
C'est vraiment dommage, on n'est pas vécu à cette époque-là. À partir de quand est-ce que ça devient le cadre d'une émission de télévision ?
Alors, la première émission Fort Boyard est diffusée le 7 juillet 1990. Le succès sera immédiat, et pas seulement en France, puisque l'émission est adaptée dans 34 pays, c'est énorme. Mais les tournages ont toujours lieu dans notre fort. Et attention, parce qu'il y a des variantes selon les nationalités.
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ? Variante, j'ai peur.
Alors, ça concerne surtout le père Fouras. Le père Fouras qui change de nom selon les pays. Alors, par exemple, dans la version belge, il s'appelle le vicomte Godefroy de Tribourio. Dans la version algérienne, il s'appelle le cheikh El Kouchkache. Et mon préféré, dans la version coréenne, car oui, il y a bien eu une version coréenne de Fort Boyard, le père Fouras s'appelle Napoléon Kim.
Mais non ! C'est extraordinaire ! Vous avez réussi à mettre un petit Napoléon, c'est magnifique. Incroyable. Alors, je vous recommande un film magnifique que j'ai vu 10 fois, qui est très très beau, qui est un film qui s'appelle Les Aventuriers, qui date de 1967, avec Lino Ventura et Alain Delon. Et les scènes finales se passent dans un Fort Boyard complètement abandonné, que l'on découvre donc à cette époque-là.
C'est
un film magnifique, vraiment très très beau, intemporel, je vous le recommande. Donc Les Aventuriers, 1967.
Arthur Chevalier, retrouvé en podcast sur l'appli RMC. Dans un instant, la météo, le journal de 7h30. Et puis à 7h40, Paris refuse de s'associer aux 22 pays de l'Union qui exigent un tour de vis migratoire après l'arrivée massive de migrants à Ceuta, enclave espagnole au Maroc. La France ne veut pas instrumentaliser cette crise. Jordan Bardella, lui, réclame la suspension de l'Espagne, de l'espace Schengen. Ce n'est pas tout à fait ce que dit Marine Le Pen. Alors qui dicte vraiment la ligne du RN? Louis Alliot, le maire RN de Perpignan, nous répond à 7h40. Bon réveil à tous, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Gouidz. Bonjour Clément.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Le Var se prépare à des jours à haut risque avec le retour du Mistral et de la canicule. L'incendie dans le secteur de Corrance n'est toujours pas fixé et a ravagé les vignes. Inquiétude des viticulteurs. Après plusieurs suicides et tentatives de suicide, une enquête ouverte au sein des services du Premier ministre Sébastien Lecornu. Et le contre-la-montre du Tour de France Femmes aujourd'hui pourrait rebattre les cartes du classement général et coûter cher à Pauline Ferrand. Très beau.
Clément, la situation reste problématique dans le Var.
Un mot hier du préfet qui appelle à la vigilance. L'incendie n'est toujours pas fixé dans le secteur de Corrance, mais n'a pas progressé. En revanche, les mauvaises conditions météo des prochains jours ont de quoi inquiéter les autorités et les pompiers. Retour du Mistral et de la canicule. Et ces feux à Najoja n'ont pas épargné le vignoble varois.
Des vignes aux feuilles marron recroquevillées sous l'effet de la chaleur, entourées par des arbres calcinés.
Il y a quelques grappes qui restent vertes, on se demande comment. Mais bon, de toute façon, elles ne peuvent plus être nourries, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sève, il n'y a plus rien là.
Martin Laplane est viticulteur, il a perdu 6 hectares avec l'incendie.
Sur 120 mètres de longueur, il n'y a plus une feuille verte et même les bois sont vraiment... Il n'y a plus grand-chose, quoi.
Il ne récoltera donc pas le raisin de ses vignes cette année. Il faut maintenant travailler pour l'année prochaine.
D'après les retours d'expérience, il n'y a pas de raison. Ça devrait redémarrer. Il faut y croire. C'est un peu difficile. Et...
On va sauver les vignes, quoi. Je l'espère.
Dans le secteur du Bessillon, toutes les vignes n'ont pas subi un tel coup de chaud. Mais il faut être vigilant et repérer celles qui auraient été touchées par le largage de produits retardants.
Ça, c'est clairement impropre à la consommation et donc à la récolte.
Frédéric Ambard est élu à la Chambre d'agriculture.
Il aura les conséquences aussi des fumées sur des parcelles qui sont à côté, qui n'ont pas brûlé visuellement, mais qui ont pris les odeurs de fumée et qui vont devoir traiter à part avec des protocoles particuliers.
Et il conclut, c'est du travail supplémentaire dans un contexte déjà tendu pour les ventes de vin.
Ouais, c'est difficile encore hein, dans le Var, mais soulagement en revanche pour les habitants de Lège-Cap-Ferré.
Ouais, ils ont pu retrouver leur maison hier après une dizaine de jours loin de chez eux. L'incendie a touché 22 maisons sur la presqu'île. En revanche, la situation est tout autre. Au Porge, où le village a été dévasté par les flammes, 183 maisons détruites. Et Grégory, lui, a eu la chance de retrouver son habitation intacte, mais pas question de rester plus longtemps.
Ma famille a eu beau être là depuis toujours, moi je veux plus vivre ici. Il y a trop souvent des incendies. Je suis également propriétaire terrien et j'ai perdu toutes mes terres, tous mes pins ont brûlé. Et pour gagner un peu d'argent avec les pins, c'est 25 ans. Ça a mis 25 ans à pousser, c'est pas du blé, quoi. Et là, bah, voilà, une page se tourne, donc je vais louer la maison à quelqu'un qui en aura plus besoin et moi je partirai ailleurs. Pour des raisons personnelles, il faut que moi je tourne la page.
L'incendie en Gironde a laissé place à un autre défi. Des millions de tonnes de pins doivent être abattus et évacués pour sécuriser le massif dévasté par les flammes. Et Inès Zegloul, la préfète, a réuni hier les acteurs de la filière bois pour lancer ce vaste chantier.
Difficile pour l'heure de savoir combien d'arbres il faudra abattre.
42 000 hectares, ça fait 4 millions. Vraiment.
La tâche s'annonce titanesque. Sur Laurent Delary du Centre National de la Propriété Forestière, des troncs noircis par millions menacent donc de tomber sur les routes, sur les habitations. Il va falloir couper à grande échelle, d'autant qu'un autre fléau plane sur les parcelles de forêt.
Des parasites qui viennent profiter des arbres calcinés pour se développer et aller attaquer des bois verts autour des 42 000 hectares. La course contre la montre, elle est là parce qu'on ne veut pas la double peine.
Alors on s'attend à une saignée, souffle Manuel Martinez, le maire de Marcheprime, mais attention, dit-il, à ne pas se précipiter.
Il y a une première étape qui est très claire, il faut que les sols soient refroidis. On ne va pas en forêt tant que les sols sont chauds. Ces bois brûlés, là, on va les voir pendant plusieurs mois, voire un an ou deux ans. Hein.
Il le martèle, l'urgence, c'est de responsabiliser les promeneurs un peu trop curieux, ceux qui voudraient s'aventurer sur les chemins brûlés. Et puis il va falloir penser à la suite, que plante-t-on à la place ou faire des pare-feux préventifs. Des réunions sont prévues le mois prochain.
Autre incendie dans la Drôme, à Bellegarde en Diois. 80 hectares ont été parcourus par les flammes. Un hameau a dû être évacué. Plus de 120 pompiers sont mobilisés, épaulés par 7 canadaires et 2 dash.
RMC 7h34, une série de drames au sommet de l'État, Clément.
2 suicides, 2 tentatives de suicide, une mort suspecte et désormais des accusations de harcèlement moral à Matignon. Une enquête a donc été ouverte. Et Thomas Becker du service politique des RMC, vous avez pu recueillir le témoignage de l'avocat d'une fonctionnaire qui a tenté de mettre fin à ses jours.
La victime présumée travaille depuis 4 ans au sein du service de correspondance du Premier ministre. Il y a quelques mois, son chef de service a changé. Depuis, elle aurait été progressivement moquée, puis harcelée jusqu'à une tentative de suicide en avril dernier, son avocate Christelle Mezza.
Elle se retrouve avec les nouveaux venus, totalement invisibilisée, placée dans le sous-sol, humiliée avec des tâches où elle est rétrogradée. Et alors qu'elle participait à des réunions, qu'elle avait un rôle majeur au sein du service, elle se retrouve totalement écartée, invisibilisée.
En cause, selon elle, l'instabilité au sein de l'administration liée à la dissolution, mais aussi la culture start-up introduite depuis plusieurs années par les nouveaux managers.
Contournement des process habituels, décisions très très rapides, court-circuitage hiérarchique.
Dans cette affaire, Christelle Mezza pointe aussi la responsabilité du Premier ministre.
Quand vous mettez en œuvre des politiques publiques et que vous gérez des services, il y a un vrai sujet, c'est jusqu'à quel point vous ne pouvez et ne devez rendre de compte. C'est trop facile de dire au quotidien, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe dans mes services.
L'entourage de Sébastien Lecornu démine. Le Premier ministre a 60 conseillers sous ses ordres. Le reste est une myriade d'entités autonomes, assure son entourage. D'après Matignon, 3450 agents travaillent pour les services du Premier ministre.
Et justement, Clément, Christelle Mezza, cette avocate qu'on vient d'entendre, sera avec nous dans un instant sur RMC. Ce sera à 7h40, elle sera en direct avec nous.
Un ancien professeur de yoga mis en examen pour viol, agression sexuelle sur plusieurs femmes, dont une adolescente à 3. Des faits vieux pour certains de près de 30 ans. Les plaintes affluent de toute la France. Cet homme de 74 ans est également soupçonné d'avoir exercé une forme d'emprise sectaire sur ses victimes.
RMC, il est 7h36. Le Tour de France, femme, change de rythme aujourd'hui.
Place à un contre-la-montre de 21 km entre Geffrey-Jeanbertin et Dijon. Un exercice redouté par la Française Pauline Ferrand-Prévot qui pourrait, Maria Azé, y laisser de précieuses secondes au général.
Elle n'a plus participé à un contre-la-montre individuel depuis 2021.
J'adore en fait être nulle dans quelque chose et de progresser.
Pauline Ferrand-Prévot le sait, un chrono peut coûter très cher sur le Tour de France.
Déjà depuis cet hiver, remonter sur le vélo de chrono, trouver une bonne position, faire des tests en aérodynamisme sur la piste. Et puis après, c'est vrai que j'ai pas fait de contre-la-montre en course, mais j'ai fait pas mal de simulations à l'entraînement.
Mais devenir une spécialiste de l'exercice demande des qualités particulières, explique la championne de France Célia Lemoël.
Oui, c'est beaucoup de gestion des forces et le travail basé sur la position. Être habitué à envoyer des watts pliés en deux, on va dire. Et c'est un peu trouver le compromis entre la puissance et l'aéro. Mais c'est sûr que bah, y a pas trop de secrets, il faut s'entraîner et ça prend un peu de temps. Ouais.
Rien d'impossible pour la dernière vainqueur du Tour de France selon Solène Müller, coureuse chez Saint-Michel.
On peut pas dire qu'elle va perdre du temps. Je la vois pas s'imposer, je pense pas, parce qu'il y a vraiment des grandes rouleuses. Mais après, c'est Pauline Ferrand-Prévot, je sais pas où est-ce qu'elle va se situer, mais elle va faire quelque chose de bien, c'est sûr.
Tenter de perdre le moins de temps possible dans un parcours de 21 km légèrement vallonné entre Gevrey-Chambertin et Dijon.
Et la Norvégienne Sigrid Oxett a remporté hier la troisième étape intégrale Tour de France Femmes à partir de 15h sur RMC. Puis premier match officiel de la saison pour l'OL. Les Gones défient le Sparta Prague ce soir, match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Coup d'envoi à 20h à suivre sur RMC.
Clément, le quintet se déroule sur l'hippodrome de Deauville à 18h30.
Et le pronostic de la Dream Team, leur favori, le 4 Caramelito, leur outsider le 11, Prince des Villes.
Merci beaucoup Clément, le prochain journal ce sera à 8h. On va au 32-16 pour retrouver Florent. Bonjour Florent.
Et bonjour la team.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. Florent, vous nous appelez depuis la Savoie. On est où en Savoie?
On est à côté de Saint-Jean-de-Maurienne.
Très bien. À Saint-Léger, c'est ça?
Saint-Léger, c'est ça.
Très bien. Vous faites quoi dans la vie, Florent?
Je suis responsable d'agent de service dans un centre de rééducation.
D'accord. Et on voulait parler avec nous de notre parti pris de ce matin sur le budget contraint des Français pour les vacances. Grave problème de pouvoir d'achat. Les Français continuent de partir en vacances, mais font des sacrifices sur un certain nombre de dépenses. Les restaurants, par exemple, l'hébergement aussi. Est-ce que vous êtes parti, vous, Florent?
Nous, on est parti 9 jours en Italie.
9 jours en Italie, d'accord. Quel budget, vous le savez à peu près?
Ah bah je peux vous dire combien on a dépensé pour 9 jours, trajet compris, ça nous a coûté 700 euros.
Ah oui.
Hébergement, taxes, c'est dans un camping avec l'emplacement de la caravane. Vous avez votre transat au bord de mer compris dans l'emplacement. Enfin c'est. Ça n'a rien à voir avec les prix que les Français pratiquent, quoi.
Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Clairement, vous êtes. C'est la première fois que vous allez en Italie, comme ça, en vacances?
Non, ça fait 10 ans qu'on va dans le même camping.
D'accord. Et il y a une vraie différence entre les prix pratiqués en Italie et en France?
Ah oui, c'est clair. Après Covid, où il fallait relancer le pouvoir d'achat en France, on nous avait conseillé, oui, il faut partir en France. On avait regardé les prix, mais si on était parti en vacances en France, on partait 4 jours par rapport pour le même budget.
Rien à voir.
Un emplacement sur la côte, sur la côte d'Azur, c'est 100 euros.
C'est sûr que oui, sur la côte d'Azur, il y a certains prix qui défient l'entendement. Merci beaucoup Florent d'avoir été avec nous en Savoie au 32-16 RMC 7h40.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, sur RMC, réunion en urgence des 27 ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne. C'est ce matin à 10h. L'Europe qui se déchire après les événements dramatiques des Ceuta et l'arrivée massive de migrants. L'Espagne réclame la solidarité et l'Italie, le Danemark, un tour de vis migratoire. La France dénonce une instrumentalisation de cette crise. Qu'en dit le RN? Je pose la question dans un instant à Louis Alliot, maire RN de Perpignan. A tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC, 7h43. Bon réveil à tous. À 10h ce matin, les ministres de l'Intérieur des 27 se parlent en urgence après l'arrivée massive de migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta, dans le nord du Maroc. L'Europe va-t-elle s'unir ou va-t-elle se déchirer? Bonjour, Louis Alliot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. Vous êtes le maire RN de Perpignan. Le 30 juillet dernier, Louis Alliot, des dizaines de milliers de personnes ont franchi illégalement la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta. Au moins 72 de ces migrants sont morts, d'après Madrid. Et l'Europe se déchire. Pedro Sanchez dénonce l'égoïsme de ses partenaires. 22 pays menés par l'Italie, le Danemark, réclament le durcissement des règles. Les ministres de l'Intérieur des 27 se parlent donc ce matin à 10h. Louis Alliot, la quasi-totalité de ces entrants, de ces migrants, ils étaient plus de 60 000, ont été renvoyés au Maroc en quelques jours. Le système a donc fonctionné.
Écoutez, d'abord, l'immigration, ça le prouve, c'est le drame de tous ceux qui meurent en Méditerranée, en toute connaissance de cause, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, sans que les gouvernements européens aient pris, qu'on le veuille ou non, les mesures dans les pays d'origine pour stopper cette immigration. Ils sont donc comptables des morts en Méditerranée. La deuxième chose, c'est que nous sommes un espace européen, le fameux accord de Schengen, et que chaque pays qui a une frontière extérieure est responsable de l'entrée et de la sortie et du contrôle de ses frontières. Et
sauf à Ceuta, je précise, Lou Alliot, mais l'espace Ceuta n'est pas concerné par l'espace Schengen.
Oui, d'accord, mais il n'en demeure pas moins que c'est un territoire espagnol et que l'Espagne doit donc contrôler ses frontières. La meilleure preuve, c'est que le roi d'Espagne lui-même, dont vous savez qu'il n'a aucun rôle, on va dire, décisionnel en Espagne, a fait quand même un communiqué pour dire que ça ne devrait pas se renouveler et que l'Espagne devait garder ses frontières. Ça veut bien dire qu'il y a un problème avec l'Espagne et ses frontières, surtout après la vague de régularisation de 500 000 immigrés clandestins par le gouvernement Sanchez. On voit bien qu'il y a là un point d'entrée en Europe de l'immigration clandestine et de l'immigration incontrôlée. Et donc, c'est normal qu'un certain nombre de pays européens s'inquiètent de l'attitude du gouvernement de M. Sanchez par rapport à l'immigration.
Jordan Bardella demande la suspension immédiate de l'Espagne de l'espace Schengen. Sauf que cette procédure, elle n'existe pas dans le droit européen. Donc, vous demandez quelque chose d'impossible.
Écoutez, c'est en tout cas une mesure que les gens souhaitent, je peux vous dire, sur le terrain. Si l'Espagne n'est pas capable de respecter les accords de Schengen, il faut bien qu'elle en soit, en quelque sorte, isolée. Alors, il y a deux manières de l'isoler. Soit tous les pays d'Europe la suspendent de l'espace Schengen, soit nous rétablissons, nous, Français, les frontières avec l'Espagne. Et moi, à Perpignan, vous le savez, je suis une ville frontalière, en tout cas à quelques kilomètres. Ça a été renforcé justement en raison de la crise de Ceuta, mais on voit bien que nos frontières sont des passoires et malheureusement nous avons affaire
Tous les migrants de Ceuta sont rentrés au Maroc.
Heureusement parce que s'il avait fallu encore.
Donc il n'y a pas eu de passoire là dans ce cas-là.
Tous les jours, cher monsieur, tous les soirs, notre police aux frontières arrête ici, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, à peu près une cinquantaine de gens, quelquefois plus. Tous les jours, tous les soirs, et les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, tous ces gens-là arrivent dans un pays qui n'a pas de travail, qui n'a pas de logement et qui est déjà en faillite sociale grave. Et on voit bien que tout cela aggrave les problèmes économiques, sociaux et humains. Donc si on veut continuer en disant « tout va bien, madame la marquise » et on continue comme avant, allons-y. Ça, c'est votre opinion, c'est pas la mienne.
Louis Alliot, Jordan Bardella demande l'exclusion de l'Espagne de l'espace Schengen. Marine Le Pen n'a pas repris cette demande. Est-ce qu'il y a deux lignes différentes au RN ?
Écoutez, elle a tellement pas repris sa demande qu'elle a retweeté son tweet. Il y a deux choses. Il y a la demande que Jordan Bardella à l'Europe, en tant que député européen, a fait dans le cadre d'ailleurs de notre groupe au Parlement européen. Et puis il y a ce que nous désirons, nous, que nous défendrons à l'élection présidentielle avec Marine, c'est-à-dire que l'espace Schengen doit être réservé aux nationaux européens et pas aux étrangers qui, parce qu'ils passent la frontière espagnole, peuvent circuler partout en Europe sans qu'il y ait le moindre problème. Parce qu'évidemment, ce moment-là, c'est le guichet social qui est privilégié et les gens viendront en France parce que c'est en France où on donne le plus de prestations sociales à des gens qui n'ont rien à faire chez nous.
Marine Le Pen, effectivement, demande de réserver le libre passage des frontières au sein de l'Union européenne aux seuls citoyens européens. Mais alors, on contrôle tout le monde ? On fait comment la différence entre un citoyen européen et un autre ?
Écoutez, il y a des cartes d'identité quand même. C'est pas.
Donc on rétablit tous les contrôles, on contrôle de systématique.
Mais je vous signale que ces contrôles, normalement, ils existent déjà. Ils existent déjà. Voilà. Quand vous arrêtez quelqu'un, par exemple, à Perpignan, qui n'est pas français, qui n'est pas européen et qui n'a pas de titre de séjour, il faudrait peut-être le renvoyer. Mais comme on renvoie personne, on est obligé de le subir en quelque sorte. Alors il y a ceux qui se comportent bien, pas très nombreux, puis il y a ceux qui se comportent mal, un peu plus nombreux. Et c'est ce, malheureusement, à quoi notre police et nos services sociaux ont à contrôler tous les jours.
Louis Alliot, soyons réalistes. Vous le savez bien. Moi, enfin, la dernière fois que j'ai été soumis à un contrôle d'identité, je ne m'en souviens même pas. Enfin, ces contrôles d'identité, ils n'existent pas, Louis Alliot.
Mais peut-être que, excusez-moi, tout ce que l'on voit.
Quand je prends ma voiture, je traverse la France. Vous savez très bien, Louis Alliot. Vous vivez aussi quand je traverse la France pour aller en vacances. Je suis jamais contrôlé.
Parce que le laxisme est généralisé et que le jour où un gouvernement tapera du poing sur la table et rétablira un certain nombre de règles, mettra dehors les gens qui n'ont rien à faire chez nous, notamment les OQTF, etc., etc., vous verrez que les choses iront bien mieux. La preuve, c'est que dans l'Europe aujourd'hui, on est minoritaire puisqu'il n'y a que la France, l'Espagne, la Slovénie, le Portugal, qui demande à avoir de la solidarité avec l'Espagne, etc., mais que vous avez tous les autres pays européens qui sont contre nous parce qu'ils trouvent que la France, l'Espagne, le Portugal sont des pays laxistes en la matière. Donc il va bien falloir arrêter le laxisme en la matière, et ça, ce sera les élections présidentielles d'avril 2027.
Une dernière question, Louis Alliot. Vous allez vous pourvoir en cassation dans l'affaire des assistants parlementaires européens au Front National. Je rappelle que...
Ça y est,
vous
c'est fait, oui.
Oui, d'accord. Vous avez été condamné à 1 an de prison et 2 ans d'inéligibilité. Hein. Le tout avec sursis.
Avec sursis,
ouais,
voilà.
Oui, absolument. Et vous allez vous pourvoir en cassation, donc.
Ben oui, hein. C'est une voie de recours naturelle, judiciaire, qui permet à chacun de pouvoir se défendre.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Louis Alliot, maire RN de Perpignan. Merci d'avoir été avec nous sur RMC, RMC Story. RMC, les 7h40, dans un instant, le portrait du jour avec Victor Pourchet. On parle de qui ?
De Milan Violon, premier nageur artistique français en grande compétition et déjà harcelé.
A tout de suite sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
RMC 7h52, le bonus RMC de Charlène Villemer. Gims en concert ce soir à la Foire au vin d'Alsace à Colmar.
Et oui, c'est le premier nom à avoir été révélé par les organisateurs l'an dernier. Et en seulement quelques heures, le concert était déjà complet. Et ce concert, eh bien, il a failli ne jamais avoir lieu. Le chanteur congolais est mis en cause dans une affaire de blanchiment aggravé. Interpellé en mars, il a été placé sous contrôle judiciaire. Mais présumé innocent et tant que les mesures sont respectées, Gims peut donc se produire sur scène ce soir. Et malgré cette actualité, Gims arrive au sommet de sa popularité à Colmar, artiste masculin de l'année aux victoires de la musique l'an dernier. Et cette année encore, flamme de l'artiste masculin. Vous savez, les flammes, hein, c'est ce qui célèbre le rap ou encore le R&B. Son dernier album, Le Nord se souvient, est réédité en 2025.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 7h53, le portrait du jour avec Victor Pourchet. Victor, tu nous présentes un pionnier français, le nageur Milan Violon.
17 ans, c'est jeune pour entrer dans l'histoire. Il est devenu hier au championnat d'Europe le premier homme français à participer à une grande épreuve libre par équipe de natation artistique. C'est autorisé pour les hommes depuis Paris 2024. Milan Violon, il se bat pour des titres et contre la bêtise des réseaux sociaux et des commentaires méchants. Écoutez-le juste après sa performance au micro de RMC.
Ça montre que pour le coup, il y a vraiment du jugement vu la vague de haine que j'ai reçue hier. Ça a été compliqué, mais je m'en sers de force et je montre que ok, je fais un sport différent. Je suis un garçon à côté de nageuse. J'essaye de passer au-dessus, c'est compliqué, mais j'essaye. Moi, je vais continuer jusqu'au bout et je lâcherai pas. Ça va être compliqué. Ça l'a déjà été, mais j'ai pas lâché et je me montre à moi-même que je suis capable de surmonter tout ça et de continuer pour montrer que c'est possible.
Ouais, l'ado en a gros sur le cœur et déjà beaucoup sous le bonnet.
Milan Violon, c'est un phénomène des bassins.
Au point d'en impressionner la directrice de l'équipe de France. Très charismatique, dit-elle, pas une simple dynamique, presque l'illustration d'une stratégie, ajoute-t-elle. Mais le Lyonnais, c'est surtout une histoire révolutionnaire de banalité finalement. Celle d'un enfant d'une fratrie de 4 qui suit sa grande sœur à la piscine, qui tombe amoureux d'un sport et d'un art. C'est l'histoire d'un adolescent qui découvre son talent en même temps que le regard des autres, lui, qui a longtemps dit « je suis nageur » sans préciser la discipline, rendez-vous compte, par peur. Cette peur, elle a disparu en montant sur les podiums de jeunes, en côtoyant l'INSEP, la Mecque du sport français, et surtout en admirant ses aînés, comme l'Espagnol Denis González, une idole désormais rivale, parce qu'on est très sérieux quand on a 17 ans et qu'on rêve de médailles aux prochaines Olympiades.
Merci beaucoup, Victor, pour ce portrait de Milan Violon. RMC, 7h55.
RMC,
dans vos villes.
Ce matin, direction Vauvert, dans le Gard, où le nouveau maire Rassemblement National, Nicolas Maisonnet, a décidé de programmer une corrida dans les arènes de sa ville. Elle aura lieu le 9 août prochain à Najojard.
Dans les arènes de sa commune, Nicolas Maisonnet, le nouveau maire de Vauvert, entre en piste devant les plus de 3000 places vides pour l'instant.
Alors, on n'a pas encore posé les numéros, mais tous ces rangs-là sont déjà réservés.
Réservés pour la corrida mixte qui se tiendra le 9 août, 9 ans après la dernière ici à Vauvert. Cette annonce faite au mois de juin a évidemment fait réagir.
Il y a toujours, c'est vrai, des mécontents. Je pense que c'est une minorité bruyante. eh bien, elle aura son espace pour éventuellement manifester si elle le souhaite. Je pense qu'il y aura, comme d'habitude, beaucoup plus de monde dans les arènes qu'à l'extérieur pour manifester, et c'est tout ce qui importe. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout pour cette corrida, de Nîmes, d'Avignon, parfois même de beaucoup plus loin. C'est un moyen de faire connaître notre commune, qui est une commune qui a besoin du tourisme aussi pour vivre.
Malgré tout, l'annonce de l'événement n'a pas surpris Cyril Vaucel, président du comité radicalement anti-corrida.
La précédente municipalité faisait déjà des noviadas, des pratiques qui consistent à mettre à mort déjà des animaux.
Et c'est parce que la tradition à Vauvert, comme dans une cinquantaine d'autres communes en France, n'a jamais été interrompue que les associations anti-corrida n'ont pas cherché à faire annuler cet événement.
Il n'y a aucun levier possible. Actuellement, la corrida est reconnue par le code pénal comme des actes de cruauté sur les animaux, sauf dans 56 îlots de torture où ces délits ne sont pas sanctionnés par le code pénal. Donc c'est la seule dérogation que l'on connaît dans le code pénal qui autorise un délit dans certaines zones sous prétexte de tradition.
Ici à Vauvert, où les rues sont imprégnées par la culture taurine, on y voit des figures de taureaux accrochées en haut des portes, des barrières installées pour les courses dans les rues. Ces habitants ne se sont pas émus de l'annonce de l'événement.
Ça ne me dérange pas plus que ça.
Pourquoi pas essayer ? Peut-être qu'il y a des gens qui vont venir, ça va attirer peut-être du monde, et voilà, voir ce que ça va donner.
Pour autant, ces habitants qui baignent de près ou de loin dans le milieu taurin disent ne pas vouloir y assister.
Dans ma vie, j'en ai fait deux, ça ne m'a pas plu. Donc, stop. Et après, on n'aime pas, et puis voilà. Hein.
Tant qu'il y aura des mises à mort, je n'irai pas. Hein. S'il en fait une sans mise à mort, oui, pourquoi pas. Les corridas, c'est plus sourni, mais ici, c'est pour les courses camarguaises. La course camarguaise landaise, c'est un jeu avec la bête, mais la bête, elle rentre chez elle, contrairement à la corrida, que le taureau, on sait que la plupart du temps, il est déjà mort avant d'arriver.
Voir un taureau se faire tuer, ça ne m'intéresse pas. Je n'irai pas payer pour ça, mais les gens qui payent, je peux les comprendre, qui payent pour voir ce spectacle-là.
Pour eux, pas question donc de manifester contre le retour de la corrida à Vauvert. Sur les réseaux sociaux, en revanche, une pétition circule pour ne pas qu'elle ait lieu. Plus de 22 000 signatures ont déjà été recueillies.
La corrida pour, contre, vous nous appelez au 32-16. Dans un instant, le journal de 8h avec à la une les pompiers qui luttent toujours contre l'incendie problématique dans le Var. Et puis juste après, Pierre Rondeau avec une bonne nouvelle, Pierre, notre économiste.
Oui, en Europe, l'inflation est plus faible chez nous.
A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
RMC 8h.
RMC, Apolline Matin.
Ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gabillet. Rebonjour Clara.
Rebonjour Rémi, bonjour à tous. Une journée stratégique pour les pompiers du Var. Le feu qui ravage le département depuis 2 semaines n'est toujours pas fixé. Nous serons en direct sur place dès le début de ce journal. Le soulagement et la désolation en Gironde, où le retour des évacués rime parfois avec constat des dégâts. Reportage au Porge avec des habitants qui ont tout perdu. Et puis l'Olympique Lyonnais joue gros ce soir. Match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Sparta Prague, c'est à 20h.
Clara, dans le Var, les pompiers luttent toujours contre un incendie problématique. Ce sont les mots employés par le préfet.
Ouais, il s'est déclaré il y a 2 semaines autour du massif du Gros Bessillon, alimenté vendredi par un autre incendie dans le secteur. Et si la situation est stable, rien ne peut être considéré comme acquis. A prévenu hier le préfet, la météo pourrait compliquer la tâche des pompiers. Rachel Sadodine, vous êtes l'envoyée spéciale d'RMC dans le Var en direct de Carcès ce matin au poste de commandement des pompiers qui se prépare à une journée stratégique.
Oui, car pour la première fois en 2 semaines, aucune consigne d'évacuation ou de confinement n'est en vigueur ce matin. C'est le signe d'une certaine stabilisation qui doit permettre aux pompiers de se concentrer sur le traitement des lisières et des points chauds. Le département du Var est toujours en vigilance orange canicule aujourd'hui, mais le vent devrait souffler moins fort, pas plus de 20 km/h. C'est ce que vient de me confier un pompier, ajoutant « la météo peut nous être favorable aujourd'hui ». Mais ce répit sera de courte durée et tout le monde en a bien conscience ici. La levée du Mistral est attendue pour demain ou après-demain et pourrait réactiver des foyers. Le préfet du Var l'a rappelé hier soir, on parle d'un feu toupie. Pas question donc de relâcher la vigilance. C'est justement la consigne qu'ont reçue les sapeurs-pompiers ce matin ici au poste de commandement de Carcès, où ils reprennent des forces avant de retourner patrouiller. Ils doivent éteindre les fumerolles, noyer les souches d'arbres encore fumantes. Et au petit déjeuner ici, autour d'un café, certains évoquent les mots du préfet hier. La reprise de feu de dimanche soir, il évoque des premiers indices qui ne laissent aucun doute sur une origine intentionnelle. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour déterminer la cause des incendies. Un jeune homme de 23 ans a été placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir provoqué une dizaine de départs de feu fin juillet. Rachel Sadodine en direct de Carcès dans le Var pour RMC. En Gironde, des milliers d'habitants se réveillent chez eux pour la première fois depuis plus de 10 jours. Ceux qui vivent au Lèche Cap Ferret et au Porge autorisés hier à regagner leur domicile alors que le feu est fixé depuis plusieurs jours. Mais pour d'autres, le retour a fait l'effet d'une claque. Au Porge, 183 maisons ont été détruites par les flammes. Notre envoyé spécial Luc Allaubert a suivi une famille sur les ruines de sa maison.
Marius le craignait, avec sa femme et ses deux enfants, ils avaient vu des images de leur maison en proie aux flammes, alors à son retour.
On pensait qu'on pourrait récupérer encore des choses, et malheureusement, il n'y a plus rien.
L'air hagard, il déambule dans ce qu'il reste de l'habitation.
Là, c'était un séjour, là on avait une chambre.
Et ce ne sont plus que des gravats, le toit a disparu, quelques murs tiennent difficilement debout, les restes d'objets calcinés jonchent le sol.
Le lit, la télé, il n'y a plus rien à récupérer, la maison elle est complètement détruite.
Tenir bon, surtout pour ses enfants et leurs nombreuses questions pour lesquelles Marius n'a toujours pas de réponse.
Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va habiter? Où est-ce qu'on va à l'école? Il va falloir trouver des solutions.
Tout était pourtant parfait à leur emménagement il y a 3 ans.
C'était un petit paradis avant, tout vert, avec la forêt à côté, c'était magnifique. C'est pour ça qu'on est tombé amoureux de cette parcelle.
Et c'est pour ça aussi que pour rien au monde, il ne partirait s'installer ailleurs.
On va tout nettoyer, on va reconstruire. On ne va pas abandonner, on est jeune, on a encore du courage, on a de la force, on ne va pas abandonner. On va y arriver.
Mais la réalité le rattrape vite. La voix serrée par l'inquiétude, il lâche à demi-mot. Je ne sais toujours pas où dormir les prochains jours.
Reportage de Luc Allaubert, l'un des envoyés spéciaux d'RMC en Gironde, où les pompiers restent mobilisés pour essayer d'éteindre entièrement le feu. Ils sont aidés depuis hier par environ 70 collègues venus d'Ukraine. Un autre incendie que les pompiers surveillent ce matin dans la Drôme, il s'est déclaré hier en fin de journée près de Bellegarde en Digoix. 7 canadaires mobilisés contre les flammes qui ont ravagé près de 80 hectares. 50 personnes ont dû être évacuées d'un hameau. Sur le plan judiciaire, nouveau bilan du ministère de l'Intérieur. Ce sont 375 personnes qui ont été interpellées depuis le début de l'été pour des suspicions de départ de feu. Parmi elles, 142 mineurs.
Clara, l'état de santé de deux jeunes randonneurs, toujours très incertains.
Un jeune homme de 21 ans, un adolescent de 14 ans, gravement blessé après avoir été frappé par la foudre hier. Victor Girard sur le sentier du GR10 dans les Hautes-Pyrénées.
Oui, il est à peine 16 heures quand un violent orage éclate sur le massif pyrénéen, alors qu'une quinzaine de randonneurs se trouvent sur un sentier à 2700 mètres d'altitude. Soudain, la foudre s'abat sur l'adolescent et le jeune homme de 21 ans. Un hélicoptère du peloton de gendarmerie de haute montagne intervient très vite sur place pour prendre en charge les deux victimes. Toutes les deux sont transférées à l'hôpital. L'une d'entre elles est notamment touchée à la tête. Raymond Piccoli, directeur du laboratoire de recherche sur la foudre, regrette l'imprudence de ces randonneurs alors que des orages étaient attendus sur le secteur.
L'orage, c'est un danger mortel. Si vous n'adoptez pas très rapidement les précautions, vérifier la météo et de ne pas sortir dans des activités extérieures, on part du principe qu'il ne faut pas s'y exposer, c'est tout.
Et si ça vous arrive, la Fédération française de randonnée conseille de s'écarter de tout arbre isolé, de s'éloigner des crêtes et d'essayer de se réfugier le plus rapidement possible dans un abri en dur.
Une cyberattaque contre Intermarché. Le groupe l'a annoncé hier, mais les faits remontent à la semaine dernière. Célestin Bougère, vous êtes en direct avec nous. Ce sont près de 300 000 clients qui sont concernés, des clients qui font leurs courses en ligne et qui passent par le drive de l'enseigne.
Oui, exactement. Si vous faites partie des 287 victimes de cette cyberattaque, vous avez dû recevoir un mail d'Intermarché. Les pirates ont pu avoir accès à vos prénoms, vos noms, numéro de téléphone, adresse postale, date de naissance, votre numéro de carte de fidélité, ou encore certaines informations sur vos commandes en ligne. Le groupement Les Mousquetaires Intermarché l'assure, aucune donnée bancaire, aucun mot de passe ni aucune adresse électronique n'a fuité. Mais vigilance tout de même si vous êtes concerné par cette attaque. Ces informations aux mains des pirates peuvent être utilisées pour rendre plus crédibles des tentatives d'hameçonnage et d'escroquerie à l'avenir. Le groupement Les Mousquetaires Intermarché a porté plainte auprès du parquet de Paris. Des investigations complémentaires sont en cours pour savoir si d'autres personnes ont été touchées par cette cyberattaque.
Les précisions de Célestin Bougère en direct sur RMC. Une réunion qui s'annonce tendue ce matin à 10h entre les 27 États membres de l'Union européenne sur la crise migratoire en cours à Ceuta, enclave espagnole frontalière avec le Maroc, dans laquelle des dizaines de milliers de personnes migrantes ont tenté d'entrer illégalement ces derniers jours. Plusieurs pays exigent depuis l'exclusion de l'Espagne de l'espace Schengen.
Clara, les Français continuent de partir en vacances, mais ils sont beaucoup plus prudents côté porte-monnaie.
Ouais, ils ont été nombreux à partir le mois dernier, mais ils ont beaucoup moins dépensé que les années précédentes. Selon une étude de France Tourisme, environ 1500 euros en moyenne de dépenses par foyer. Et lorsqu'il faut se serrer la ceinture, Alexandre Thibault, ce sont les activités et les restaurants qui passent à la trappe.
En vacances une semaine en Bretagne, Adèle et ses amis, étudiants...
Ouais, on fait attention quand même à pas tout ce qu'on fait quand même.
...ont dû faire quelques concessions.
Quand on va acheter de la nourriture et tout, des fois, on fait attention à manger plus de pâtes, par exemple, parce que c'est moins cher. Ou pour les logements, de chercher les moins chers.
Car ils sont allés chez une amie, donc pas de logement à payer. Sur place, il y a aussi les activités. Damien, lui, part en famille.
Par exemple, s'il y a une activité qu'on veut absolument faire, mais qui n'est pas donnée, on va la faire, mais au détriment d'autres activités, peut-être.
Et quand il faut manger.
Des restos, on limite, on fait plus du pique-nique parce que c'est moins cher et puis c'est sympa surtout.
Des restaurants qui deviennent donc la variable d'ajustement. Christophe Souk, restaurateur et vice-président de l'UMI, l'Union des professionnels de la restauration des Alpes-Maritimes.
Je crains malheureusement que les gens choisissent plus maintenant par rapport au prix que par rapport à leur choix alimentaire. Mais moi, j'ai une baisse du ticket moyen d'1,40€ par couvert.
Des touristes qui sortent aussi moins en raison des températures très élevées.
On a vécu un mois de juillet qui était mauvais. Trop de chaleur, les gens n'avaient pas envie de manger. On a tous perdu plus de 30 à 40% de notre chiffre d'affaires sur ces jours-là.
Il s'attend à un mois d'août meilleur pour compenser les pertes de l'été.
Alexandre Thibault, en football, la saison commence tout juste et l'Olympique lyonnais joue en partie son avenir ce soir. Les Lyonnais se déplacent en République tchèque pour le match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Sparta Prague. L'enjeu sportif est important, Maxime Tillette, tout comme l'intérêt financier.
Oui, ce premier match officiel de la saison est déjà l'un des plus importants pour les Lyonnais. Le but est de retrouver la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2020, mais aussi de redresser les finances du club. Au bord du précipice depuis plusieurs mois, Lyon doit vendre encore plusieurs joueurs pour assainir ses comptes. En cas d'échec sportif, l'OL sera reversé dans une Ligue Europa bien moins lucrative. Donc, une qualification parmi le Gotha européen jugée nécessaire. Le simple fait de jouer les 8 matchs de la phase de Ligue rapporte 18 millions d'euros, sans parler des droits télé, de la billetterie ou des bonus de 2 millions accordés à chaque victoire. Pour y parvenir, le chemin est encore long. En cas de qualification face au Sparta Prague, il faut ensuite écarter les Turcs de Fenerbahçe ou les Autrichiens du Sturm Graz.
Et puis le Tour de France femme avec cette victoire hier de la Norvégienne Sigrid Hogset. Elle s'empare du maillot jaune. Aujourd'hui, c'est un contre-la-montre qui attend les coureuses en Bourgogne. 21 km entre Gevrey-Chambertin et Dijon. Départ 14h30, les coureuses qui seront contrôlées au niveau de leur tenue et notamment de leur soutien-gorge. Un soutien-gorge potentiellement rembourré selon l'Union Cycliste Internationale. En augmentant la surface de la poitrine des coureuses, il pourrait permettre un gain aérodynamique pour les coureuses.
Histoire pour le moins surprenante, ouais. Et on en parlera tout à l'heure à 8h40 sur RMC, puisque Franck Perc, directeur sportif du Tour de France femme, sera avec nous. On va au 32-16 retrouver Jonathan. Bonjour Jonathan.
Salut Rémi, salut RMC.
Merci d'être avec nous sur RMC. Alors Jonathan, vous nous appelez depuis c'est pas à côté, hein. On est à Séoul.
Ah oui.
En Corée du Sud, c'est
exactement.
Ça Jonathan, qu'est-ce que vous
absolument
faites là-bas?
Et je suis en vacances avec les enfants et je vous écoute en décalé parce que d'habitude, voilà, 7h du matin, c'est un peu tôt pour vous écouter.
Il est quelle heure là, à Séoul?
Il est 15h.
Il est 15h en plein après-midi, vous nous écoutez, très bien. Vous êtes parti loin là, avec sacré budget, j'imagine, en famille.
Ah oui, c'est le cas, on peut le dire. On travaille dur toute l'année pour ça. Et puis on fait un vrai trip. On a commencé par le Japon, on est en Corée maintenant et on terminera à partir de fin de semaine en Thaïlande.
Oh là, wow. Clara Gabillet qui est en face de moi, la bouche grande ouverte, très jalouse. vous avez une idée de du but? Bon, j'imagine, parce que vous avez prévu, c'est pas ouais, quelque chose qui se prévoit comme ça. C'est quoi votre budget là total pour ces vacances?
Honnêtement, en l'occurrence, c'est un père célibataire avec deux enfants,
ouais,
qui est déjà expatrié, donc j'ai gagné un peu mieux ma vie que quelqu'un, d'accord, qui est en France. Mmh. Et donc un budget comme ça, il faut compter, honnêtement. Pour les hôtels, les avions et tous les extras, entre 15 et 20 000 euros pour le mois de vacances.
Ouais, c'est un sacré budget. Je rappelle que le budget moyen des Français pour les vacances, c'est 1 530 euros. Hein, donc, on en est loin, mais bon.
Oui, c'est vrai.
Mais est-ce que vous, malgré tout, les vacances, je l'imagine, c'est crucial, c'est vital et il faut l'année, vous mettez de côté, vous nous dites.
Premièrement, c'est crucial. Deuxièmement, on peut faire beaucoup moins cher. C'est juste que je travaille à l'étranger toute l'année, je vois pas mes enfants toute l'année, je travaille 12 heures par jour, 6 jours sur 7, donc c'est vraiment ambiance travail tout au long de l'année. Donc le mois de vacances avec les enfants l'été, ça dessonne.
Bon fin de séjour Jonathan et bon retour. Voilà, merci d'avoir été avec nous au 32-16 ce matin depuis Séoul en Corée du Sud, RMC 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Que se passe-t-il à Matignon ? Deux suicides, deux tentatives de suicide, une mort suspecte révélée ces derniers mois dans les services du Premier ministre. Une fonctionnaire a déposé plainte pour harcèlement moral, mise en danger de la vie d'autrui. Même au sommet de l'État, les agents ne sont pas protégés. C'est ce que dit Christelle Maza, son avocate. Elle est notre invitée dans un instant sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 8h15, deux suicides, deux tentatives, une mort suspecte en 7 mois. C'est le bilan dressé au sein des services du Premier ministre qui emploie quelques 3450 agents. Une plainte pour harcèlement moral et mise en danger de la vie d'autrui a été déposée le 25 juin dernier. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. Bonjour, maître Christelle Maza.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story ce matin. Vous êtes l'avocate de l'une des fonctionnaires qui a tenté de mettre fin à ses jours. C'était en avril dernier. Maître, qui est votre cliente et que lui est-il arrivé exactement ?
Alors, ma cliente, c'est une fonctionnaire des services du Premier ministre qui travaillait dans le service des correspondances. C'est là où les services du Premier ministre reçoivent les courriers de l'ensemble des citoyens ou entreprises, associations de la nation. Donc, c'est un service qui a l'habitude de travailler sous tension. Progressivement, des suites de l'instabilité structurelle de ces services, depuis la dissolution de 2024, évidemment, et le nombre important de ministres, de premiers ministres et de cabinets différents qui se sont succédés, couplés à une ambiance extrêmement tendue au sein des services par des comportements individuels, s'est retrouvé totalement invisibilisé dans des conditions d'un particulier dénigrement et avec beaucoup, beaucoup d'humiliation.
Ça, c'est l'ambiance générale dans ces services, le dysfonctionnement de ces services que vous nous racontez. Qu'est-ce qui vous, selon vous, pardon, la conduite là à cette extrémité, elle, personnellement ?
C'est-à-dire qu'on a toujours beaucoup de mal, manifestement, à comprendre que le harcèlement moral peut pousser à des gestes extrêmes, des passages à l'acte, mais c'est particulièrement cartographié dans la sociologie du travail. Quand on en arrive à de tels extrêmes, c'est le système et l'organisation du travail qui sont malades. À partir du moment où vous avez un seul cas, déjà, dans l'organisation du travail, ça doit immédiatement poser question. Quand il y a autant de cas et d'atteintes à l'intégrité de la personne, là, on est dans quelque chose d'extrêmement grave. Ça, c'est continuer en fait de participer d'un déni, de fragmenter les sujets en pensant que c'est des choses individuelles ne permet pas de comprendre ce qui se passe.
Maître, vous décrivez une situation personnelle qui est quand même frappante. Elle aurait été privée progressivement de ses missions, écartée des réunions, isolée dans un bureau en sous-sol. Ajoutez à cela, selon vous, des humiliations publiques, des commentaires dévalorisants qui sont dénoncés dans la plainte que vous avez déposée. Et je parle donc, nous sommes à Matignon.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que malheureusement, on attend de ce type de service une certaine exemplarité, puisque le service du Premier ministre gouverne la nation. Il faudrait déjà appliquer la loi sur l'obligation de protection de la santé et de la sécurité sur ses personnels. 3500 personnels, c'est pas les 70 millions et quelques Français. Ça pose question de savoir comment on peut à ce point faire un déni sur le respect de la dignité de la personne au travail.
Sachant que la santé mentale est grande cause nationale décrétée par le chef de l'État.
Oui, et c'est un peu toute la schizophrénie, parce que quand on regarde comment ça se passe dans le service public en général et ces services qui, encore une fois, sont soumis à une exemplarité particulière, quand on voit comment ça se passe, ça pose question. Comment on peut exiger ou régenter sur une nation quand, dans ses propres services, on n'a pas cette exemplarité-là ? Et j'insiste parce que, malheureusement, ça continue, l'absence de prise en considération de ces sujets.
Ça continue à l'heure actuelle ?
Les mesures appropriées ne sont pas prises, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où des responsabilités pénales sont engagées, on rentre dans une forme de guerre procédurale où d'un côté on va avoir un déni ou une analyse fragmentée des sujets, c'est-à-dire de renvoyer à chaque cas individuel sans se poser la question du système.
Et pour revenir au cas de votre cliente, c'est, selon vous, ce n'est pas un cas isolé, c'est un problème systémique.
Oui, mais c'est le harcèlement moral au travail a toujours une inscription dans l'organisation du travail. Ça participe d'un déni. Pourquoi ? Parce que c'est une défense. Évidemment, chaque organisation, privée ou publique, ne va pas remettre en question ses modes de fonctionnement, parce que c'est accepter que quelque part on a une organisation du travail malade. C'est toute la question du travail qui est posée. Et dans des structures comme ça où on a l'habitude de travailler sous tension, faut comprendre que c'est des fonctionnaires qui sont là depuis très longtemps, qui savent très bien comment ça fonctionne, qui ont l'habitude de ce type de service. Donc c'est pas la question de pas supporter la pression, c'est qu'à un moment donné il y a des comportements qui sont devenus absolument inacceptables.
Et vous établissez un lien direct de cette situation avec l'instabilité politique depuis la dissolution, les changements incessants au sein des ministères et notamment de Matignon.
Ça, l'enquête approfondira et le dira, établira les responsabilités. En tout état de cause, sur une simple science du travail, quand vous avez une telle instabilité structurelle, qui est assez inédite quand même dans la Ve République, et que vous avez autant d'atteintes à l'intégrité de la personne en si peu de temps, je pense qu'il y a des conclusions à en tirer.
Est-ce que vous avez appelé le Premier ministre actuel, Sébastien Lecornu, à prendre la parole ?
Écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'administration, on organise les choses correctement pour qu'il y ait un certain nombre de hauts fonctionnaires ou de membres du cabinet qui soient responsables bien avant le ministre, puisque le principe, c'est que les hauts fonctionnaires protègent toujours les décisions politiques. La vraie question, là, aujourd'hui, que ce soit là le Premier ministre ou les autres ministres, parce qu'ils sont aussi concernés, malheureusement, par ce type de sujet. L'année dernière, j'avais dénoncé les suicides à l'hôpital. À un moment donné, il faut interroger les responsabilités politiques ou quand on met en place des organisations du travail dans nos institutions de la République qui sont aussi mortifères, je pense que ça doit interroger tous les citoyens et qu'on doit effectivement répondre de ces situations.
Mais le patron, c'est quand même lui, à l'heure actuelle de Matignon.
Alors, directement...
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas lui qui gère directement les services, mais enfin, au bout d'un moment, la responsabilité, elle est engagée.
Encore une fois, sur le strict terrain pénal, il y a plusieurs échelons et ça, l'enquête déterminera les responsabilités directes, puisque dans la fonction publique, on appelle ça les hiérarchies fonctionnelles ou statutaires. Donc, qui sont les responsables au sens de la loi? Qui a l'obligation légale de la protection de la santé et de la sécurité? Sur un terrain politique, moral, éthique, c'est des questions de déontologie aussi. Et là, on répond comme n'importe quel fonctionnaire. On exige des fonctionnaires une exemplarité absolue. Moi, j'aimerais qu'on ait cette même exigence vis-à-vis de nos décideurs et de nos patrons politiques.
Merci beaucoup, Maître Christelle Mazat, d'avoir été avec nous. Puis je vous rappelle un numéro, le 3114, numéro national de prévention du suicide, gratuit et accessible, 24 heures sur 24. RMC, il est 8h22. Pierre Rondeau, économiste, est avec nous. Pierre, d'après les derniers chiffres, la France est l'un des pays qui a la plus faible inflation en Europe.
Oui, et ça peut étonner, mais les chiffres ne mentent pas. Sur un an, entre juillet 2025 et juillet 2026, la France fait partie des bons élèves de la zone euro, avec une inflation de seulement 2,4%. Seule l'Estonie à 2% et Malte à 2,1% font mieux. Mais la France se classe troisième, loin devant des pays comme l'Espagne ou la Belgique, avec des taux d'inflation supérieurs à 3,5%. Lanterne rouge, c'est la Lituanie qui se classe dernière, avec un taux d'inflation de 5,6%. La France fait mieux que la moyenne de l'Union européenne à 2,9%, un cocorico.
Comment expliquer ce résultat, Pierre ?
Et parce que 2,4%, c'est faible. Et on avait plutôt l'impression que les prix augmentaient beaucoup et augmentaient beaucoup et très vite. Mais c'est parce qu'il y a un biais. On s'est focalisé sur l'inflation, sur les prix de l'énergie, notamment le pétrole avec le conflit en Iran. On avait par exemple notre auditrice Corinne sur WhatsApp qui nous disait que les prix d'énergie avaient augmenté. Ils ont certes augmenté de 12,4% sur la période, mais ont été compensés par deux effets, deux mécanismes connus par les économistes, l'effort concurrentiel sur le marché alimentaire et la modération salariale. Et qu'est-ce que c'est que donc oui. le premier donc l'effort concurrentiel?
Oui, s'il te plaît, parce que là je t'avoue que l'effort concurrentiel, je m'étais pas penché sur la question depuis un moment.
L'effort concurrentiel sur le marché alimentaire, c'est lorsque la concurrence est forte en France dans la distribution alimentaire, les distributeurs se concurrencent très fortement sur les prix. D'accord. Au bénéfice des consommateurs. En gros, pour garder des parts de marché. Ils ne vont pas trop augmenter les prix et conserver la clientèle. Ce qui permet de contrôler l'inflation alimentaire à 1,2%, c'est très faible en France, contre 1,3% en Allemagne, 1,8% en Italie et encore 3,3% au Luxembourg.
La concurrence joue le jeu. Là. Enfin, pour le coup, ça marche.
Ouais. Exactement. Mmh. Les prix de l'alimentation n'augmentent pas aussi fortement qu'ailleurs en Europe. Et enfin, dernier élément, et on l'a vu tout à l'heure, la modération salariale. Les salaires en France augmentent peu par rapport au reste de l'Union européenne. Et on a une augmentation nette de seulement 0,1% du salaire réel en France. Les entreprises ne répercutent pas la hausse du coût du travail sur les prix et garantissent ainsi une inflation maîtrisée.
Mais inflation maîtrisée, mais alors pas au niveau des prix des carburants.
Hein, alors, pas au niveau des prix des carburants, effectivement. On est toujours sur un niveau plus élevé que supérieur à 2 euros. Le samplon 95 à 2,014 euros. Le gazole à 2,238 euros. Le baril du pétrole qui avait beaucoup baissé hier repart à la hausse aujourd'hui à 84,86 $. Et le gaz, lui, il baisse très légèrement à 57,80 €.
Bon, bah face à tout ça, on va essayer de se détendre un peu, Pierre. Il a pris quelques jours de vacances, mais il nous a laissé son meilleur Arnaud de Manche sur RMC, RMC Story.
Une pétition réclame des wagons réservés aux femmes et aux enfants dans les transports en Île-de-France.
Oui, mais bon, je me mets à leur place, ça fait flipper les transports parisiens. C'est terminé, un tramway nommé Désir. Maintenant, on est sur un RER nommé Oscar. Les wagons pour femmes, alors, je suis contre, hein, totalement. Parce que ça m'obligerait, moi, à monter dans un wagon plein de mecs. Et moi non plus, j'ai pas envie. Moi non plus, je veux pas faire ça. Des mecs frustrés parce qu'il faut aller au boulot, qu'on est serré et qu'en plus, on leur a interdit d'acheter des poupées maintenant. C'est vraiment comme être en prison.
Quelle horreur.
Mais c'est vrai que pour les filles, c'est relou. Hein. Les frotteurs, les agresseurs, je me mets totalement à leur place. Les mecs qui draguent comme des bœufs dans les wagons. Faut le vouloir pour draguer dans le RER, d'ailleurs. Hein. Les mecs ont pas honte. Dans 6 mois, vous allez voir, Apolline, ils vont passer dans les wagons. Moi, je les vois déjà.
Non. Mesdemoiselles et mesdames, actuellement sans gonzesse, je me permets de passer parmi vous pour choper un numéro de téléphone ou deux, car ça fait maintenant 8 jours que je n'ai pas baisé. Si vous pouviez me dépanner d'une brouette javanaise, d'une cravate espagnole ou même d'un tourniquet norvégien, je vous en remercierais. Croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur que je fais ça, mais ça n'est pas facile de pécho quand on a ma tronche et mes boutons.
Oh non.
Je ne vous demande pas grand-chose, juste de me laisser toucher un nichon ou deux, ou votre ticket de métro. En vous remerciant d'avance, je vais maintenant passer parmi vous afin de frotter un maximum de cul. C'est affreux. C'est affreux. Heureusement, on lutte contre ça. Il y a des campagnes de prévention. Il y a peut-être les wagons séparés, on verra. Il y a surtout de la vidéosurveillance, Apolline. Ça se fait beaucoup. Comme ça, on pourra même bientôt, avec l'intelligence artificielle, identifier les harceleurs à la caméra, les archiver dans la data, et la machine les re-repérera s'ils viennent dans d'autres gares.
Oui.
Il y aura une annonce sur les quais, on entendra.
Non.
Le gros relou numéro 6424, à destination d'une nana qui ne lui a rien demandé, va entrer en gare, voie C. Il dessert la cause masculine en général et emmerde des femmes à Strasbourg, Mulhouse, Vitré, Hermont, Colombes et Paris-Saint-Lazare. Éloignez-vous de cette ordure du quai, s'il vous plaît. Voilà.
Voilà, Arnaud Demange, dans un instant, la météo, le journal sur RMC, RMC Story. Puis le Tour de France, femme écrasée par la chaleur. Son directeur sportif, Franck Perc, est l'invité d'Apolline Matin dans un instant. Ce sera 8h45, à tout de suite. RMC, 8h29.
RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Gouiz. Rebonjour Clément.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Soulagement pour certains habitants de l'Age Cap Ferré qui ont pu regagner hier leur maison. RMC est allé à leur rencontre. Après l'afflux de migrants vendredi à Ceuta en Espagne, l'Europe va-t-elle se montrer solidaire? Réunion ce matin des ministres de l'Intérieur de l'UE et des mineurs accusés de crimes remis en liberté. Une faille judiciaire qui suscite l'incompréhension des victimes et de leurs familles.
Clément, la presqu'île du Cap Ferré a retrouvé ses 8000 habitants.
Beaucoup de soulagement pour certains d'entre eux, heureux de retrouver leur maison après 12 jours loin de chez eux. Et notre envoyé spécial RMC, Ameline Lafchin, est allée à leur rencontre.
Sur la route, à quelques kilomètres de l'Age Cap Ferré, des voitures en file indienne. Au bout, derrière les barrières, l'entrée de la commune. La délivrance pour Christine qui retrouve sa maison intacte.
Forcément, c'est un soulagement. On a eu très très peur pour notre maison, pour notre ville, pour nos amis, pour nos commerces.
Dans le centre-ville où la vie tente de reprendre.
Pas trop pris comme ça, ça va ?
La boulangerie a rouvert ses portes.
Désirez autre chose ?
Plus loin, dans le bourg, Fabien retrouve ses habitudes après un long périple.
Le temps était long, surtout psychologiquement parlant. On a évacué, on est parti sur Arès. À 10h30 du matin, évacué d'Arès, donc on est parti dans la famille à Martignas. À Martignas, en fin d'après-midi, évacué. Donc on est parti se réfugier un petit peu, se reposer à Toulouse.
Pour d'autres, comme Frédéric, tuyau d'arrosage à la main.
C'est le grand nettoyage, puisqu'il y avait une coupure d'électricité. Et bon, tout ce qui est frigo, congélateur, tout est à vider.
Un moindre mal, car derrière ça est entièrement brûlé. La maison de ses voisins, à elle, était ravagée par les flammes.
La préfecture a donné hier son feu vert à la réouverture de 8 campings à Lège Cap-Ferré. C'est un tout autre paysage dans le village du Porge en Gironde. Les habitants ont regagné leur logement hier et ont constaté les dégâts. 183 maisons ravagées par les flammes.
Les pompiers qui sont toujours mobilisés dans le Var.
L'incendie dans le secteur de Corrence ne gagne plus de terrain mais n'est toujours pas fixé. Les 1500 pompiers vont faire face à une nouvelle journée compliquée. Canicule, rafale de vent. Le préfet du Var, Simon Babre, appelle à la plus grande vigilance.
C'est la première journée depuis le 21 juillet que nous n'avons aucune population confinée ou évacuée. Et c'est quand même un soulagement pour beaucoup de communes, beaucoup d'habitants. Rien ne peut être considéré comme acquis. Nous aurons à nouveau une journée avec les rafales qui pourraient quand même atteindre ou dépasser les 40 km/h. Donc la situation reste une situation problématique avant que mercredi ou jeudi ne se réinstalle un flux de Mistral qui referait partir le vent dans un sens opposé et qui pourrait réactiver des foyers ailleurs que les foyers qui ont été traités depuis deux jours.
Deux randonneurs foudroyés sur le sentier du GR10 à Cotteret dans les Hautes-Pyrénées. Il s'agit d'un adolescent de 14 ans et d'une personne de 21 ans. Leur pronostic vital est réservé. L'un d'entre eux serait touché à la tête. Ça brûle également aux États-Unis. Un millier de bâtiments ont été dévastés ces dernières heures par les flammes dans l'État de Washington. Plus de 65 000 personnes évacuées. Aucune victime n'est à déplorer.
RMC 8h33, l'Europe sous pression.
La situation à Ceuta en Espagne où 60 000 migrants sont arrivés vendredi illégalement sera au cœur d'une réunion ce matin des ministres de l'Intérieur de l'UE. Madrid met déjà en garde ses partenaires en réclamant une solidarité sans faille. De quoi Sonia Gobry raviver les tensions entre les 27.
Oui, l'Espagne s'est sentie lâchée par ses partenaires et compte le faire savoir. Son premier ministre Pedro Sanchez a déjà condamné l'attitude impardonnable, égoïste de certains gouvernements. Cible principale, l'Italie de Giorgia Meloni qui a suspendu jusqu'à nouvel ordre les accords de Schengen avec l'Espagne alors même que la libre circulation ne s'est jamais appliquée à Ceuta. Au milieu, la présidente de la Commission européenne tente d'apaiser les tensions. Comme l'Espagne, Ursula von der Leyen affirme que la protection des frontières est une responsabilité européenne partagée. Et en même temps, comme l'Italie, elle estime que cette crise montre qu'il faut les renforcer avec, si nécessaire, des barrières physiques. Une de 500 mètres est d'ailleurs en cours d'installation dans la Méditerranée, à la frontière avec le Maroc.
La quasi-totalité des migrants ont été renvoyés au Maroc. Le bilan fait état de 72 morts selon Madrid.
Clément, c'est une faille juridique qui fait polémique.
Pendant 23 jours, la justice n'a pas pu maintenir en juillet certains mineurs accusés de crimes en détention provisoire. Plusieurs d'entre eux ont donc été remis en liberté. Une décision, Maxime Clieruza, difficile à comprendre pour les victimes et leurs familles.
Parmi elles, la famille d'un jeune tué en 2023, le 13 juillet dernier, à la demande de son avocat, l'un des accusés mineurs a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Une situation difficile à expliquer aux proches de la victime, selon leur avocat, maître Hector Lajouni.
J'aurais expliqué qu'il y aurait un procès et que justice sera évidemment rendue. Le contrôle judiciaire, ça n'est pas la liberté pure et simple. C'est en l'espèce une assignation à résidence avec un jeune qui n'a pas le droit de sortir de son domicile. C'est quasiment comme de la détention à domicile. Donc, ils ne sont pas animés d'une haine ou d'une vengeance. Évidemment qu'ils sont déçus et que pour un citoyen, c'est difficile de comprendre que la justice, qui est censée vous protéger, n'a pas prévu ce vide juridique.
À l'origine de ce vide juridique, une censure du Conseil constitutionnel en juin 2025. Il reprochait au code pénal des mineurs d'être trop proche de celui des majeurs. Le gouvernement avait donc un an pour se mettre en conformité. Il aura attendu le 23 juillet dernier pour combler ce vide. Les mineurs libérés, eux, le resteront jusqu'à leur procès.
Un bébé de 2 ans retrouvé mort dimanche dans un appartement à Marseille. L'enfant présentait des traces de strangulation. La mère, son conjoint et une adolescente ont été interpellés et placés en garde à vue.
RMC 8h35, la Seine retrouve ses nageurs.
Les meilleurs nageurs européens ouvrent ce matin les épreuves d'eau libre à Paris. Un fleuve désormais ouvert cet été au grand public qui replonge les Parisiens dans l'ambiance des Jeux de 2024.
Le fait que ces lieux dans un cadre de vie qui est proche de chez nous, ça peut nous intéresser et permettre aux gens de s'intéresser à ce type de sport. Ça fait un héritage des Jeux. C'est beau que ça perdure et que ça puisse s'inscrire dans la durée. Ouais.
J'étais venue pour les JO regarder les épreuves en eau libre. C'était super émouvant de voir les nageurs se débattre dans la Seine parce que pour le coup, il y avait beaucoup de courant.
Pour moi, c'est un peu l'équivalent du télétravail post-Covid. On tire des trucs positifs. Voilà. Là, c'est bon, maintenant, il y a la baignade dans la Seine.
C'est nostalgique, ça donne une époque nostalgique. Paris était jeu avant et c'était trop bien. Ouais,
c'est trop bien la période des JO. Donc c'est bien, ça laisse un petit goût de cette époque.
Les championnats d'Europe de natation, c'est à suivre sur RMC. C'est à suivre également sur RMC, la 4e étape du Tour de France Femmes. Au programme, à contre-la-montre de 21 km entre Gevrey-Chambertin et Dijon, les tenues des coureuses seront contrôlées avant le départ. Vérifier si leurs soutiens-gorge ne sont pas rembourrés, une technique qui permettrait un gain aérodynamique.
Et on en parle dans un instant avec Franck Perc, directeur sportif du Tour de France Femmes, qui est notre invité.
Et l'OL défie le Sparta Prague ce soir. Match aller du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Coup d'envoi à 20h et c'est à suivre sur RMC.
Clément, je ne sais pas ce que tu feras à 18h30, mais ce que je sais que c'est qu'à Deauville, ce sera le départ du Quintet.
Eh ben, il faut parier sur le 4. C'est le favori de la Dream Team. C'est Caramelito et leur outsider, c'est le 11, Prince des Villes.
Merci Clément. Pour le journal, ce sera à 9h. Tom est avec nous au 32-16. Salut Tom.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC. On est à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône.
Oui, c'est ça.
Tom, vous voulez nous parler du parti pris d'RMC ce matin sur les vacances. Gros problème de pouvoir d'achat. Les Français continuent de partir en vacances, mais dépensent beaucoup moins, ou en tout cas essaient de le faire. Tom, bon, vous êtes à Martigues en vacances toute l'année, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est très chaud chez nous.
Est-ce que vous êtes parti ou est-ce que vous allez partir quand même, Tom?
Oui, nous, on revient là il y a 2 jours de Thaïlande. On est parti, j'ai 3 enfants. 1 an, 5 ans et 7 ans. Mm-hmm. Et on est parti quasiment 5 semaines en Thaïlande.
Bon, j'imagine gros budget là.
Oui, gros budget, mais après pas tant que ça comparé à la France parce que là-bas tout est moins cher quoi. Donc c'est sûr que ça fait des économies.
Est-ce que vous avez une idée de à peu près du budget que vous avez dépensé, que vous avez consacré pour ces 5 semaines de vacances?
Alors moi j'ai dépensé, puisque je compare avec ma femme aussi, j'ai dépensé quasiment plus qu'un mois et demi de salaire. Donc dans les 3 500, quasiment 4 000 euros. Mmh. Et ma femme qui a pris, elle en plus, qui gagne mieux que moi, qui a pris les billets d'avion, a dû dépenser dans les 5 000 euros.
Ouais, bon, ça fait quand même un beau budget.
Ouais, voilà, c'est des beaux budgets. Après, on gagne bien, mais il faut s'organiser à l'avance. Les billets, ça fait quasiment 1 an qu'on les a pris.
Voilà, malgré le fait que vous ayez un budget conséquent consacré à vos vacances, que vous gagnez bien votre vie, tant mieux. Mais vous nous dites que quand même, vous faites attention, vous regardez, vous comparez.
Oui, on compare parce que bon, donc on a un budget conséquent, mais du coup on a des dépenses qui sont conséquentes aussi parce qu'on a un crédit, etc. Donc il faut tout organiser bien à l'avance, quoi.
Très bien, merci Tom d'avoir été avec nous. Bon, les vacances étaient bonnes, j'imagine.
Les vacances étaient parfaites. Tout le monde s'est régalé. Les petits ont plein de souvenirs et c'est le plus important.
Et c'était pas la saison des pluies là en Thaïlande?
C'était le début de la saison des pluies et bon, pour tout dire, sur un mois de là-bas, on a eu 3 jours de pluie.
Ça va, c'est pas mal. Merci Tom d'avoir été avec nous et belle journée du côté de Martigues. Anthony nous rejoint. On est dans la Nièvre. Bonjour Anthony. Est-ce qu'Anthony est là? Non, Anthony, malheureusement, on n'est plus là. Anthony nous a appelé depuis la Nièvre. Bon, lui, il avait choisi une autre destination, un peu moins éloignée, mais quand même, belle destination, puisqu'il est parti sur l'île d'Oléron. Pas mal, quand même. Allez, RMC, il est 8h38. Dans un instant, ce sera le choix de la rédaction. Qui sont les personnes qui mettent le feu en France? 375 personnes interpellées depuis le début de l'été. 142 sont des mineurs. C'est dans un instant sur RMC, RMC Story, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
RMC 8h42. Le choix de la rédaction, c'est avec vous ce matin, Pierre Bazin du service police justice d'RMC. Les enquêtes se poursuivent après les nombreux incendies qui se sont déclarés partout en France et qui ont ravagé plus de 120 000 hectares au total. 375 personnes ont été interpellées depuis le début de la saison, soupçonnées d'être à l'origine d'un départ de feu. Au moins un chiffre est surprenant, Pierre. Parmi ces 375 personnes, on compte 142 mineurs.
Oui, et parmi ces mineurs, certains ont été interpellés pour avoir causé des départs de feu de façon accidentelle ou par négligence, avec des jets de pétards, des tirs de mortier dans des zones particulièrement sèches. Certains d'entre eux ont 10 ans à peine. Raphaël Ballan, le procureur de Toulon, a été confronté à plusieurs mineurs suspectés de départs de feu ces dernières semaines.
Ça fait partie des auteurs réguliers que l'on rencontre. Alors, il y a ceux qui veulent simplement s'amuser, qui peuvent être très jeunes. Récemment, à Toulon, nous avons eu un enfant de 12 ans. Et puis il y en a quand même un qui visiblement avait l'intention de vraiment faire un feu de forêt, donc profil plus inquiétant, avec des problèmes psychologiques aussi. Donc lui, il a été déféré immédiatement, et son papa est pompier, donc vous voyez, il est largement sensibilisé aux questions. Mais parfois, les mineurs commettent des faits qui nous dépassent. Donc c'est pas systématiquement un problème de responsabilité parentale.
Mais qu'il soit majeur ou mineur, la justice doit être ferme. C'est une demande que Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, a d'ailleurs adressée au procureur de la République. Même si les parquets n'ont pas attendu ces dernières semaines pour prendre des réquisitions sévères face aux incendiaires, selon le procureur de Toulon.
Quand on arrive à attraper des auteurs d'incendie, soit par imprudence, avec des négligences qui ne seront pas acceptables, et encore plus quand c'est évidemment des incendies volontaires, eh bien effectivement la justice pénale doit être particulièrement ferme. On sait que c'est des phénomènes qui peuvent être sériels. C'est important qu'on puisse les appréhender rapidement pour pouvoir les juger et les neutraliser au moins quelques temps, notamment en détention.
Pour autant, Pierre, face à la sévérité demandée par la garde des Sceaux, le garde des Sceaux, la justice applique surtout la loi en fonction de chaque situation, mais aussi en individualisant la peine en fonction des personnalités des mises en cause.
Oui, et les personnalités des incendiaires interpellés ces dernières semaines, elles sont plurielles. Il n'y a pas de profil type de pyromane, constate Muriel Gestas. Ces dernières années, l'avocate a défendu une quinzaine d'incendiaires.
Pour le coup, j'ai eu beaucoup de profils différents. J'ai eu des pompiers volontaires. J'ai même eu des sociopathes. J'ai vraiment eu un peu de tout. Il y a des gens qui sont fascinés par le feu, par les dégâts. Il y en a d'autres qui se réjouissent et du feu et des conséquences. On a vraiment de tout. J'ai croisé des gens qui n'avaient pas de prédisposition à mettre le feu et qui ont causé des incendies gravissimes. Ça peut être un médecin, ça peut être tout type de personnes et des gens très très bien vus et très très bien insérés.
S'intéresser aux personnalités, diligenter des expertises, approfondir les investigations, tout cela prend du temps. Un temps qui contraint parfois la justice à organiser des audiences plusieurs mois après les départs d'incendie.
Merci Pierre Bazin du service police-justice d'RMC. Anthony est avec nous au 32-16. On a retrouvé Anthony. J'espère qu'il est là, Anthony. Bah non, on a reperdu Anthony. J'en ai bien l'impression. Ouais, bah, il a redisparu. Il voulait parler de ses vacances, Anthony, sur l'île d'Oléron. Mais à mon avis, il est bien occupé sur l'île d'Oléron. C'est pas grave. Dans un instant, fin juillet, début août, c'est la pire période de l'année. Certainement, pour rouler sous 40 degrés. Faut-il déplacer le Tour de France femme dans le calendrier? C'est l'une des questions que je vais poser dans un instant à Franck Perc, directeur sportif de l'épreuve. C'est tout de suite sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC, 8h47. Des coureuses à la limite de leur force. Des étapes disputées en pleine canicule. C'est le quotidien sur le Tour de France femme depuis le départ. La question qui monte dans le peloton, faut-il neutraliser, raccourcir, déplacer l'épreuve dans le calendrier? Franck Perc est avec nous. Bonjour Franck Perc.
Oui, bonjour.
Merci.
Alors, on n'est pas du tout sur le même ressenti là de ce que.
Bon, eh ben vous allez nous expliquer.
Ok, nous on est sur le terrain. C'est vrai que on est dans une période estivale. C'est les températures de l'été.
Ouais,
on a de la course.
Bon, Franck Perc, on va en parler dans un instant avec nous. Vous êtes le directeur sportif du Tour de France femme. Quatrième étape aujourd'hui entre Gevrey-Chambertin et Dijon. Le Tour de France en comporte 9. Au total. Mais d'abord, je vais vous poser une question. Rien de grave là-dedans, mais depuis ce matin, ça nous a beaucoup interpellés, là, au sein d'RMC, sur cette histoire de soutien-gorge. Je vous explique, pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y aura aujourd'hui des vérifications des tenues des coureuses, parce que on va notamment vérifier leur soutien-gorge, voir s'ils ne sont pas rembourrés, parce que le fait qu'un soutien-gorge soit rembourré pourrait donner de l'aérodynamisme, si j'ai bien compris, aux coureuses, c'est ça?
Oui, alors c'est un aspect du règlement de de l'UCI en termes d'aérodynamisme, il peut y avoir des gains par rapport à un éventuel carénage. Et effectivement, les commissaires mettront en place au départ aussi une vérification par rapport à ces gains qui pourraient être, ce carénage qui pourrait être utilisé, qui apporte au niveau des fluides, de l'aérodynamisme, un avantage. Mmh. Et donc, ça sera contrôlé au départ lors de cette étape contre la montre individuelle entre Gevrey-Chambertin et Dijon.
Qu'en disent les coureuses?
Je ne sais pas, il faudrait leur poser la question.
Je sais pas. Vous me disiez que vous étiez sur le terrain, mais bon, vous n'avez pas fait de sondage sur le sujet.
On sait que parfois, il y a une petite marge qui peut être utilisée. Ça fait partie des règlements. Ça peut être aussi des éléments techniques contrôlés sur le vélo, la largeur des jantes, la taille des boyaux. Bon, là, c'est au niveau de l'abdomen. Il est clair que si vous arrondissez l'abdomen et vous avez ces gains, une forme de carénage qui vous amène un peu plus d'aérodynamisme, moins de résistance dans l'air et des secondes à l'arrivée.
Bon, on parlait de la chaleur, Franck Perc. Vous nous dites, sur le terrain, ça se passe bien, on est en période estivale. Malgré tout, on a connu pas mal d'épisodes de très forte chaleur, notamment depuis le départ du Tour de France Femmes. Hier encore, la Côte d'Or, et où vous serez aujourd'hui à Dijon, était en vigilance orange canicule. Aujourd'hui, j'ai regardé, ça sera du 35 degrés ressenti. Mais vous nous dites que ça se passe bien.
C'est-à-dire qu'on a des températures, hier on devait avoir 37 dans la voiture à un moment au pic, c'est vrai qu'on est sur des températures chaudes, celles qu'on peut connaître en été, en juillet, en août. On a un été très très chaud, on a vécu des épisodes avec ce dôme de chaleur par moment où on était plutôt dans la saison parfois à 40. Là, on est, comme vous l'avez dit, 35 ressentis sur un contre-la-montre individuel de 21 km. Donc, on voit que ça éprouve les organismes. Il y a des sujets qui sont plus ou moins résistants, on va dire, à ces conditions météorologiques qui sont les nôtres actuellement. Mais ça peut être le cas, c'est un sport d'extérieur, ça peut être le cas quand il pleut, quand il fait froid. Là, c'est la chaleur. Il y en a qui préfèrent, qui supportent mieux la chaleur que d'autres. Mais dans l'ensemble, depuis le début, ça se passe bien. Et au niveau, on a aussi adapté en course le fait qu'elle puisse se ravitailler régulièrement, avoir des bidons régulièrement, pouvoir avoir des poches de glace aussi régulièrement.
À ce sujet, est-ce que les équipes sont toutes logées à la même enseigne face à la chaleur? Ce que je veux dire par là, c'est que j'imagine que certaines équipes qui ont un peu plus de moyens ont des équipements différents par rapport à d'autres.
Ah déjà, la température, elle est la même pour tout le monde.
Ça,
le peloton va démarrer et ça sera les mêmes conditions pour l'ensemble du peloton.
Mais certains ont des bus climatisés, un staff médical plus imposant.
Ensuite, c'est surtout là où ça se joue. Toutes les équipes ont deux véhicules à l'arrière de la course qui couvrent les coureuses, les 7 coureuses par équipe. Et surtout sur le parcours où elles vont trouver à différents endroits. Déjà, le ravitaillement est ouvert au bout de 10 km. Au bout de 10 km, vous pouvez appeler votre voiture, récupérer des bidons pour toute l'équipe, une musette avec plusieurs bidons et des poches de glace et ravitailler les coureuses. 10 km, c'est à peine 20 minutes en course. Oui. Ensuite, vous avez tout le long du parcours sur toutes les difficultés, du pied de la difficulté jusqu'à 500 mètres du sommet, ce qu'on appelle des zones fraîcheurs, là où vous pouvez récupérer des bidons, des poches de glace, même des gels. Et ça, c'est dans toutes les ascensions répertoriées. Et puis ensuite, tous les 30 à 40 km, vous allez trouver une zone de ravitaillement.
Franck Perc, on comprend qu'il y a tout un dispositif qui est mis en place. Vous faites pas n'importe quoi, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer quand même d'adapter différemment ce type d'épreuve qui demande des efforts extrêmes, avancer les horaires de départ ou décaler dans la saison?
Là, après, on est sur une période, c'est vrai, chaude. Je crois que les températures, elles vont continuer, elles vont commencer à baisser légèrement. Oui. Il se pourrait même qu'il y ait de la pluie en fin de journée aujourd'hui.
Mais malgré tout ce type de période, vous le savez, elles sont amenées à se multiplier.
Il faudra voir avec le temps. Il faudra forcément adapter. Alors les solutions, je ne les ai pas actuellement, mais effectivement, ça a été le cas. On l'a vu sur une étape du Tour de France. où le parcours a été raccourci. Donc c'est une des façons, c'est une des manières d'adapter les conditions climatiques. Il y en a d'autres, il y a d'autres solutions, il faudra les utiliser au moment venu. Aujourd'hui, on le voit depuis le départ de la Suisse, il fait chaud, mais c'est l'été et on est encore dans quelque chose qui est réalisable. Et puis après, c'est aux athlètes de parler. Et hier, il m'a semblé voir de la course, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de mouvements de course sur en fin d'étape, alors que les conditions étaient les mêmes du départ à l'arrivée.
Le Tour de France femme dure 9 jours cette année. Le Tour de France homme, 3 semaines. Pour quelle raison cette différence ?
Est-ce que le Tour de France homme a vu sa première édition en 1903 et il a poursuivi son évolution. Nous, on réécrit un nouveau chapitre depuis 2022. Le sport féminin, d'une manière générale, et se développe. Est très regardé aujourd'hui et il y a son public, ses fans et puis il y a ses téléspectateurs et le développement est en cours.
Et là on peut imaginer un jour avoir un Tour de France femme de 3 semaines.
Ça sera aux athlètes de décider, c'est elles qui vont décider de leur futur. Aujourd'hui, le format de 9 jours, je crois qu'il correspond à ce qui est possible de faire en termes de, on va dire, de peloton féminin professionnel, les 147 coureuses. Et demain, peut-être que ça évoluera. Alors, on est en plein développement, on n'est qu'à la 5e édition, et c'est à elles de décider, c'est elles qui décideront de leur futur. Ça peut se développer, on ne sait pas comment sera le Tour de France femme avec Zwift dans 10 ans, dans 20 ans.
Merci.
Tout ça, c'est en cours de développement.
Merci Franck Perc d'avoir été avec nous, directeur sportif du Tour de France femme. Dans un instant, le journal de 9h sur RMC. Et ce sera le meilleur des grandes gueules. Et puis nous, eh bien, on se retrouve demain dès 7h jusqu'à 9h. À demain. Bonne journée à tous.